Donc l'idée, ça serait de continuer, mais de continuer si vous et les bon, un peu plus de 300 personnes qui ont participé au moins à une de ces séances, puisque voilà, c'est les 300 mails qu'on a, donc un peu plus. Pense que c'est utile de continuer ce type de réflexion collective, parce que je dis collective parce qu'effectivement c'est collectif au sens où chacun d'entre vous qui est venu plusieurs fois a dû remarquer que, contrairement à beaucoup de colloques universitaires, à la fin des conférences, il n'y a jamais de blanc, quoi. Il y a tout de suite des questions, des interventions, des remarques, et que l'animateur de la soirée n'a pas grand-chose à faire, hein, sauf dire oui à monsieur, madame, etc. Et ça, c'est un des points qui nous incite à continuer ce travail. Mais voilà, donc on vous a demandé si vous de nous répondre si vous le désirez, mais ça peut être simplement oui, ça m'intéresserait que ça continue. Ça peut être ça peut être il y a tel aspect que vous n'avez pas traité. On sait qu'il y a des aspects qu'on n'a pas traités, parce que là on a traité à partir de nos capacités à nous, essentiellement sur Lyon et dans notre laboratoire, qui est un laboratoire d'études du politique au sens large. Et donc voilà. On va réfléchir à éventuellement inviter des gens sur la géopolitique, à inviter des gens. Hein, c'était un des thèmes qui a été abordé dans des questions sur les prisons, sur le rôle des prisons dans la radicalisation, etc. Des choses comme ça. Et l'autre chose qu'on veut faire, c'est avec ces premiers textes qu'on vous a envoyés à chaque fois, là on attend celui de Valérie Salapalas sur les politiques de logement et la production de discrimination et de ségrégation ethnique. Emmanuel va nous donner très bientôt le sien sur les théories du complot et comprendre les théories du complot. Faire un petit livre en demandant aussi à quelques autres collègues de compléter, voilà, faire un petit livre qu'on mettra à disposition. Voilà, donc je remercie tous ceux qui, au fur et à mesure de leur présence, sont devenus des connaissances, sinon des amis. Je remercie en particulier un mouvement citoyen qui s'appelle le mouvement du 11 janvier, qui est là depuis le début et qui nous relaie nos informations, etc. Et qui peut-être dira deux mots tout à l'heure, quand on aura fini la conférence, sur leur initiative du 11 juin. Voilà. Et puis, bon, voilà. Donc, ça, c'est le préambule. Le préambule de notre équipe, hein, qui est une équipe large de gens qui sont intéressés à ça, qui se sont dit qu'il fallait qu'on fasse le peu de choses qu'on peut faire. Mais si tout le monde fait le peu de choses qu'il peut faire, hein, ça peut faire beaucoup de choses à la fin, quoi. Voilà. En tout cas, c'est l'espoir qu'on a. Alors, je fais maintenant mon rôle d'animateur de la soirée, qui est donc, vous présente le conférencier de ce soir, Emmanuel Taïeb, qui est professeur de sciences politiques ici à Sciences Po Lyon, voilà. Qui est aussi à l'Institut universitaire de France et au laboratoire Triangle. Alors, ses travaux portent sur la violence politique, bon, dans une perspective socio-historique, sur le biopouvoir, et ce qui l'amène ici ce soir, sur la circulation des informations, des rumeurs et des théories du complot. Alors, il a publié un livre, pas très très vieux, mais important, qui n'a pas de rapport direct, qui s'appelle La guillotine au secret, les exécutions publiques en France, 1870-1939, hein, chez Belin en 2011. Et puis je vous incite, parce qu'on les trouve assez aisément sur le net, pour compléter ce qu'il va nous dire ce soir. Des articles sur la théorie du complot, il y en a en particulier dans la revue Quaderni, qui est une revue qu'on trouve sur le site Open Access Percé. Hein. Il y en a un en particulier sur les rumeurs après le 11 septembre 2001. Et puis il y en a un très récent dans les dossiers de l'audiovisuel de l'INA, qu'on trouve aussi en ligne, hein, sur le conspirationnisme comme idéologie. Voilà, donc je lui cède la parole.
Merci Jean-Claude. Je voulais effectivement remercier Jean-Claude Zancarini, Renaud Père pour leur invitation. Je crois que c'est vraiment important que l'ENS et Sciences Po Lyon imagine ce type de rencontre, parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir collectivement après Charlie, et puis réfléchir collectivement sur l'après Charlie, et le faire peut-être en sortant de quelques cercles universitaires ou de quelques happy few, et d'être sur une commande, qui est la commande qui m'avait aussi été passée, d'être un peu grand public. Au sens le plus noble, de nous inscrire tous dans cette réflexion-là. Et je pense que c'est une réflexion qui commence en réalité à peine. Hein. Les événements sont vraiment très, très récents. Alors précisément, ce qui a motivé au départ cette intervention, c'est le développement, quasi immédiatement après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère, d'une lecture qui a nié le récit des événements tels qu'ils étaient racontés. Ces événements, ils étaient racontés par des témoins, ils étaient racontés par des images, ils étaient racontés par des films, ils étaient racontés par les médias, ils étaient racontés par la police, ils étaient racontés par le procureur de Paris, par exemple, et ils étaient racontés par des hommes politiques. Bon. Donc une lecture, et j'emploie ce mot lecture, une lecture qui va s'imposer contre ces récits-là, et qui va être une lecture totale, complète, cohérente. On va s'arrêter sur elle. Hein, et cette lecture qui va être faite des événements, une contre-lecture des événements, c'est ce qui va nous intéresser. On a donc deux récits. Un premier récit qui est raconté par de multiples sources, et un autre récit qui va venir se superposer à ce premier récit. Le premier récit, celui dont je viens de vous parler, c'est-à-dire celui qui est donné par les politiques et autres, va être très rapidement qualifié de récit officiel. Cette qualification, elle pose problème d'emblée. Voilà. Il n'y a pas de récit officiel. Il y a des récits qui existent en parallèle, qui s'entrechoquent ou non, mais il n'y a pas de récit officiel. Donc il y a des récits, des événements depuis différents points de vue. Bon. Mais on va, à un moment, apposer le label officiel et on va prendre tous ces récits-là comme un seul bloc, et on va les prendre artificiellement comme un seul bloc. Et à ce récit qui est dans un glissement devenu le récit officiel, à ce récit, on va substituer, alors on verra qui est le « on », mais on va substituer un autre récit qui est de nature complotiste. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens vont poser que, d'une part, les faits ne sont pas ceux qui nous ont été présentés, donc les faits tels que nous les connaissons ne sont pas les bons. Par exemple, j'en redirai un mot tout à l'heure, mais je l'indique, le policier qui a été tué à bout portant juste devant les locaux de Charlie Hebdo n'est pas mort, ne serait pas mort, on verra pourquoi. Bon. Et puis d'autre part, on va nous dire que les vrais commanditaires de ces attentats ne sont pas ceux que l'on croit. Ce sont d'autres gens, d'autres commanditaires, et donc il faudrait en permanence regarder derrière les apparences. Les apparences sont trompeuses. Donc on a très vite, après les attentats, le développement de ce discours, de ce contre-récit qui va se répandre très vite, qui va se répandre sur les réseaux sociaux, qui va utiliser ce qu'on appelle la viralité, c'est-à-dire qui va se répandre comme un virus informatique sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc une diffusion vraiment massive. Et ce contre-récit, pour des raisons qu'on examinera peut-être un peu rapidement, mais qu'on donnera quand même, ce contre-récit va apparaître comme étant plus séduisant pour l'esprit que le récit officiel avec des guillemets. Bon. Et pour un certain nombre de gens, ce récit complotiste est devenu la vérité de ce qui s'est passé en janvier 2015. Donc le récit du complot devient, pour un certain nombre de gens, la vérité de ce qui s'est passé en janvier 2015. La presse va être un peu déstabilisée par le développement de ces théories du complot. Elle est un peu surprise, comme vont être surpris un certain nombre d'enseignants dans le secondaire, dans le supérieur, parce qu'ils vont avoir face à eux des étudiants qui sont désormais convaincus par les théories du complot. Et donc tout le monde va essayer de comprendre comment ces théories du complot seraient apparues d'un coup. Hein, comment sont-elles apparues après les attentats. Alors justement, ce qu'on va voir ensemble, c'est que cette lecture complotiste, elle n'apparaît pas d'un coup. C'est en réalité le complotisme, le conspirationnisme, les mots ne sont pas très élégants, c'est ceux dont on dispose. Ce complotisme est un phénomène ancien, c'est un phénomène qui est bien connu des sciences sociales depuis très longtemps. Donc je vais essayer de vous montrer les ressorts de ces lectures complotistes du monde, je vais essayer de vous indiquer leur ancienneté, leur mécanisme et surtout leur dimension politique qui m'intéresse beaucoup. Et on essaiera quand même, puisqu'on est dans un lieu d'enseignement, de terminer par quelques préconisations, quelques tuyaux entre guillemets pour sur les manières de travailler au fond sur les théories du complot. Alors je vais commencer par un premier point sur l'imaginaire du complot. Trois remarques préliminaires avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet sur la façon dont on peut travailler sur les théories du complot, en tout cas la façon dont moi je les travaille sans prétendre épuiser quoi que ce soit. Première remarque, l'analyse du complotisme ne nie pas qu'il y ait eu et qu'il y ait des complots dans l'histoire. C'est-à-dire que de l'assassinat de César jusqu'au 11 septembre, il y a bien des gens qui ont fomenté une action particulière pour servir leurs propres intérêts ou pour retourner une situation politique à leur avantage. Donc les complots existent historiquement. De la même façon, dans nos sociétés, il y a des intérêts qui s'entrechoquent, il y a un conflit autour des intérêts, chacun essayant, les groupes ou les individus essayant de défendre leurs intérêts, et la défense de ces intérêts peut passer par des moyens souterrains dont la visibilité est relativement faible. Ça peut être des réseaux, ça peut être des systèmes des moyens de pression, ça peut être tout ce qu'on appelle la littérature grise. Donc il y a des choses qui existent sans passer nécessairement par l'espace public. Bon. L'analyse du complotisme s'intéresse, elle, au remplacement de certains protagonistes ou de certains faits dans l'analyse des complots. C'est ça qui nous intéresse, c'est ce mécanisme de remplacement, et non pas le fait de dire qu'il n'y a pas de complot ou il n'y a pas d'intérêt. Bon. Donc, par exemple, dans le cas du 11 septembre, ce qui intéresse l'analyse du complotisme, c'est ce moment où on va attribuer les attentats au service secret israélien ou au service secret américain ou à l'administration Bush elle-même, etc. Ce qui nous intéresse, c'est le remplacement de faits par d'autres ou le remplacement de protagonistes par d'autres. Deuxième remarque, quand on discute à droite à gauche dans les dîners, quand on reçoit des mails plus ou moins sympathiques, moi on me dit mais quand même, alors vous travaillez sur les complots, mais vous ne croyez quand même pas à la thèse officielle de l'assassinat de Kennedy. Vous n'êtes pas, vous ne croyez pas à la thèse du tireur unique. Et si vous y croyez, me disent certains de mes interlocuteurs, c'est que c'est vous le croyant. Vous dites que les gens qui croient au complot sont des croyants, c'est vous le croyant, et nous, complotistes, les complotistes ne se disent jamais complotistes, nous sommes les sceptiques. Nous sommes les sceptiques de notre temps, tandis que vous, universitaires, vous êtes des croyants. Alors c'est habile, évidemment, il y a un retournement, parce qu'on va déplacer tout le débat sur le terrain de la croyance et dire qu'au fond, les universitaires sont des croyants, voire qu'ils font partie du complot eux-mêmes. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Le discours scientifique, même relatif, et il est par essence relatif, ne relève pas de la croyance. Il repose, ce discours scientifique, sur des hypothèses, sur des protocoles expérimentaux, sur des tests, sur des observations, sur des enquêtes qui sont susceptibles alors d'être falsifiées, c'est comme ça que disent les scientifiques, c'est-à-dire de donner les moyens à ceux qui passent derrière vous de montrer que ce que vous avez fait est faux. Donc il faut que tout ce qu'on dit soit falsifiable. Dans le cas des sciences dures, on va dire comment on a procédé au niveau du protocole expérimental, quelle quantité on a mis de tel ou tel produit pour que ceux qui passent derrière refassent l'expérience et voient à quel endroit on a pu éventuellement se tromper. Et donc le discours scientifique repose sur une démonstration, il va essayer de produire des résultats. Et donc il va s'éloigner des hypothèses. Un résultat scientifique ne produit pas d'hypothèses, il produit des résultats. Donc l'idée est de s'éloigner des hypothèses, de s'éloigner des impressions, de s'éloigner des affirmations sans preuve. On ne croit pas à la théorie de l'évolution darwinienne, ça fait l'objet d'une démonstration. En revanche, on peut croire à la théorie, on peut croire au créationnisme qui lui relève d'un discours religieux qui n'a pas de prétention scientifique. Bon. Or, le grand complot des complotistes n'est jamais prouvé par ses défenseurs, il est juste énoncé. Comment prouver l'existence de ce grand complot ? C'est pas à moi d'y répondre, j'y reviendrai en dernière partie. Bon. Troisième remarque préliminaire, peut-être la plus importante, ce qui m'intéresse à la limite, ce n'est pas le complot, c'est le complotisme, c'est-à-dire le isme, l'imaginaire du complot, la lecture complotiste des phénomènes sociaux, l'idéologie politique qui sous-tend cette lecture complotiste des phénomènes sociaux. Alors je vais employer le mot théorie, il faut le mettre avec des guillemets, il n'est pas complètement satisfaisant. Vous avez un certain nombre d'autres auteurs, par exemple dans un beau livre qui est sorti il y a 2 ans d'Emmanuel Damblon et Loïc Nicolas, ils vont, eux et leurs auteurs, proposer plutôt de parler d'explication par le complot, parce qu'il s'agit pour les tenants du complotisme d'une explication du monde, d'un mode d'emploi du monde. D'autres auteurs, un auteur comme Marc Angenot propose de parler de pensée conspiratoire, et puis Pierre-André Taguieff, qui est l'un des grands spécialistes du complot en France, propose de parler de rumeurs de complot, hypothèses de complot, idéologie du complot, mythe ou mythologie du complot. On voit bien que le mot théorie pose vraiment problème, donc un certain nombre d'auteurs essayent de le remplacer par autre chose, et puis on peut parler aussi assez simplement de discours complotistes. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de voir que le discours complotiste ou conspirationniste n'est pas un discours flottant. On n'est pas dans l'ordre de la rumeur qui serait fabriquée comme ça, collectivement, par un inconscient collectif. On est en présence d'un discours ancien, construit, sourcé, cohérent, qui vise à fabriquer du mythe, qui vise à fabriquer des mythes contemporains, ou qui vise à recycler des mythes plus anciens, donc qui s'appuient sur un terreau préexistant, un terreau de mentalité au pluriel, un terreau de représentation. Donc une grande fabrique de mythes contemporains, et précisément travailler sur le complot, c'est travailler sur des mentalités de notre temps, c'est travailler sur des représentations de notre temps. Et ce discours complotiste, et là c'est un élément vraiment important, c'est une arme politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas employé à la légère, c'est une arme politique. Les théories du complot ne naissent pas spontanément, elles sont portées par des groupes, elles sont portées par des partis politiques qui poursuivent des objectifs politiques explicites, et notamment la volonté de se construire des ennemis politiques vers lesquels un jour peut-être une violence politique sera dirigée. Ces acteurs politiques utilisent donc le levier du complot, la rhétorique du complot, c'est pour ça que je vous ai mis la couverture de l'ouvrage analytique de Damblon et Nicolas, la rhétorique du complot pour faire passer des messages et pour exister dans l'espace politique, parce que souvent il s'agit d'acteurs un peu dominés qui ont du mal à exister dans les médias ou à exister dans l'espace politique et qui vont, par le biais du complot, brutalement exister. Alors si on prend un acteur qui n'est pas dominé, mais qui a toujours eu une position un peu marginale, Jean-Marie Le Pen, très très vite, Jean-Marie Le Pen, 2, 3, 4 jours après les attentats, ou 3 jours après les attentats, dit, alors il ne le fait pas en France, il déclare quelque chose à un journal russe qu'on ne va pas nécessairement lire si l'AFP ne s'en fait pas le relais, et Jean-Marie Le Pen dit, les attentats, c'est un coup des services secrets. Alors, on ne sait pas très bien quel service secret, sans doute les services secrets français, mais on voit bien comment, en faisant cela, alors qu'il n'a absolument aucune preuve pour le dire, ça va lui permettre d'exister médiatiquement et politiquement pendant un moment, puisque tout le monde se fait l'écho de cette prise de parole, et en même temps, on voit bien comment ça s'inscrit dans la tradition, j'ai presque envie de dire dans le programme du Front National, c'est-à-dire la dénonciation permanente des barbouzeries. Donc ce que dit Jean-Marie Le Pen, c'est dans la tradition des barbouzeries, voilà, qu'il avait dénoncé historiquement, qu'il dénonce depuis 50 ans. Ça fait partie de la dénonciation de l'establishment, ça fait partie de la dénonciation de ceux qui tireraient dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen les ficelles dans l'ombre. Bon. Donc on voit bien qu'il y a un dessein, il y a systématiquement une idée dans l'usage de cette arme politique qu'est la rhétorique du complot. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser plutôt que définir cet imaginaire du complot? Alors je vous ai indiquer quelques caractéristiques. Les théories du complot sont des théories donc non scientifiques qui affirment que les actions humaines et le cours de l'histoire ne sont pas le fruit du hasard, c'est-à-dire des choses non intentionnelles, ou ne sont pas le fruit du jeu politique et de toutes les interactions permanentes dans une société, mais que un certain nombre d'événements sont en réalité provoqués par l'action secrète d'un petit groupe d'hommes qui est désireux de réaliser un certain nombre d'actions ou qui est soucieux d'asseoir sa domination sur un certain nombre de populations et de pays. Ces hommes cachés, ce petit groupe d'hommes qui tirent les ficelles, peuvent être des groupes internes au pays, des minorités, mais ça peut être aussi au plus haut niveau des groupes internationalisés ou organisés au niveau mondial, voire aussi dans certaines théories des monstres ou des extraterrestres, j'en dirais un mot, comme ça, ça paraît étrange, énorme succès d'un certain nombre de théories complotistes sur les extraterrestres aux États-Unis. Mon collègue Philippe Corcuff ajoute que le complot est pris dans une posture essentialiste, c'est-à-dire que ceux qui croient au complot vont, au fond, attribuer à des groupes une essence malfaisante, et que cette essence malfaisante, elle se transmet au fil du temps. Donc vous verrez que c'est toujours les mêmes groupes qui sont accusés, et donc on va voir que les formes du conspirationnisme, en tout cas dans les 120 ou 130 dernières années, n'ont pas beaucoup bougé. Le conspirationnisme, et c'est ce qui fait son succès paradoxal, va développer une histoire sombre, une histoire dans laquelle, au fond, les individus sont dépossédés de leur libre arbitre, sont dépossédés de leur capacité à agir, et le monde social tout entier est aux mains de minorités agissantes qui vont précisément écraser les individus. Donc le complotisme permet, je disais tout à l'heure, un mode d'emploi, permet de créer tout un rapport au monde, tout un rapport au monde social, et de gérer, par cette explication-là, le fonctionnement du monde, de gérer la complexité du fonctionnement du monde social. La question, évidemment, c'est la question de savoir d'où vient le complot, ou d'où vient le complotisme. Donc, deuxième point, les origines du complotisme. Alors, vous l'avez, je ne l'ai pas dit explicitement, mais vous l'avez deviné de ce que j'ai dit, le complotisme est avant tout une accusation. C'est-à-dire qu'il va imputer la responsabilité d'un événement à un groupe, il va le désigner comme ennemi, et il va l'accuser donc d'agir dans l'ombre. Depuis le Moyen-Âge, parce que c'est un phénomène ancien, le complotisme a accusé deux types d'ennemis, soit une minorité ou des minorités, soit l'État. Alors parmi les minorités, on trouve historiquement par exemple les jésuites, les protestants, les francs-maçons, une minorité aujourd'hui disparue, les cagots qui existaient dans le sud-ouest, qui étaient accusés de pourrir tout ce qu'ils touchaient, et puis les juifs. Et concernant les juifs, on pensera par exemple aux accusations médiévales de crimes rituels, de sorcellerie, de profanation d'hosties dans des sociétés chrétiennes ou de contamination de l'eau des puits. Et on verra que les accusations contre les juifs sont d'une extraordinaire plasticité parce qu'elles sont quasiment arrivées intactes jusqu'à nos jours. Donc premier ennemi, les minorités qui existent à l'intérieur d'une nation ou d'un pays. Second ennemi, plus récent, l'État lui-même et les hommes politiques. Alors c'est par exemple le cas avec ce qu'on a appelé le complot de famine. Là, je vous ai mis la couverture d'un beau livre sur cette question-là de l'historien Stephen Kaplan. Et en fait, le complot de famine, c'est l'idée qui se développe à partir des années 1768 en France, suite à de très mauvaises récoltes et suite à la libéralisation du commerce des grains sur le territoire français. On avait commencé à accuser le roi et son entourage d'affamer la population. C'est la première fois en France que l'idée ou l'image du roi nourricier est remise en cause. C'est-à-dire qu'on avait le roi qui effectivement avait des largesses, et là on passe à un roi qui affame sa propre population. C'est surtout, pour ce qui nous intéresse, une des premières accusations de complot qui est portée contre l'État, ou contre la figure de l'État, ou contre la figure royale. Cette accusation-là, elle arrive aussi pratiquement intacte jusqu'à nos jours, où on va accuser l'État ou un certain nombre d'organisations de dominer ou de faire quelque chose aux populations et d'affaiblir les populations. L'imaginaire du complot, tel qu'on le connaît, se cristallise vraiment à partir du XVIIIe siècle, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Je vais le faire en compagnie du philosophe Marcel Gauchet, qui considère que le développement des théories du complot est lié à cette rupture qu'incarne la Révolution française de 1789. Typiquement, la Révolution française est comprise par ses contemporains, plutôt elle n'est pas comprise, mais en tout cas elle est vécue par ses contemporains, comme un événement historique imprévu, inassimilable et incompréhensible. Et très vite, les ennemis de la Révolution vont commencer à penser qu'au lieu de penser qu'elle avait des causes structurelles ou politiques, ils vont commencer à penser qu'elle est arrivée par l'action de groupes qui l'avaient fomentée. Et donc, ils vont lire la Révolution comme une manœuvre à très grande échelle de l'action d'un certain nombre de petits groupes d'hommes qui veulent le malheur de la France et qui voudraient prendre le contrôle du pays. Un des auteurs qui a le mieux résumé cette vision complotiste, c'est l'abbé Baruel, qui écrit juste après la Révolution, vous avez le slide sur l'écran, « Dans cette Révolution française, tout jusqu'à ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué, tout a été l'effet de la plus profonde scélératesse, puisque tout a été préparé, amené par des hommes qui avaient seuls le fil des conspirations longtemps ourdies dans des sociétés secrètes et qui ont su choisir et hâter les moments propices au complot. Il y a tout, c'est bien écrit, il y a tout, il y a la conspiration, il y a le secret, il y a cet événement inassimilable de la Révolution. Si on avance un tout petit peu, le vrai problème que pose la Révolution, c'est la suppression de la monarchie. C'est-à-dire que le pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, n'a plus été incarné par un individu. Le pouvoir est devenu ce qu'un philosophe important qui s'appelle Claude Lefort, le pouvoir est devenu un lieu vide, où vont simplement transiter des individus qui n'ont pas le pouvoir. Ils sont élus, mais ils ne possèdent pas le pouvoir biologiquement, ils n'incarnent pas le pouvoir. Et donc le pouvoir a été, le lieu du pouvoir, qui jusque-là avait toujours été habité, est perçu désormais comme un lieu vide, et à ce lieu vide, on va substituer dans les imaginaires un vrai pouvoir, mais derrière le lieu vide. C'est-à-dire que c'est compliqué de penser le pouvoir comme lieu vide, donc il faut quand même repenser, le réhabiter, penser un lieu qui soit quand même habité. Donc derrière le pouvoir comme lieu vide, on va penser un deuxième pouvoir qui va être, pour le coup, un pouvoir secret, un pouvoir contre-démocratique, un pouvoir dans l'ombre, une contre-société, une contre-société politique. Et ça, c'est un retournement historique considérable, parce que jusque-là, c'était plutôt le pouvoir qui avait peur des masses, hein, pensez aux frondes, pensez à la contre-réforme, pensez à la peur du régicide, pensez à la chasse aux sorcières. Jusque-là, c'était le pouvoir qui avait peur des masses, alors qu'à partir du moment où on est dans un système de souveraineté populaire, eh bien, ce sont les populations qui vont craindre le pouvoir. Et donc, comme on ne comprend pas ce nouveau pouvoir-là, on va considérer qu'il est en permanence manipulé. Alors, il est manipulé par des minorités, par les jésuites, par les francs-maçons, par les juifs à partir du 19e siècle. Donc, on retrouve nos minorités. Simplement, elles ont changé d'échelle. Elles sont capables de contrôler des pays entiers. Au 20e siècle, on va encore changer d'échelle. On va commencer à dénoncer le poids ou la mainmise du complexe militaro-industriel, le poids d'un certain nombre de lobbies plus ou moins mystérieux, le poids d'un certain nombre d'agences de l'État, NSA, CIA, voilà, pensez à la série X-Files qui a fait vraiment son succès là-dessus. Et puis, des grandes agences internationales, par exemple, l'OMS. Alors là, je vous ai mis un slide d'un PowerPoint qui a circulé il y a quelques années, qui contenait 12 ou 18 diapositives. Je vous ai juste mis la première et puis dans un instant je vous passerai la deuxième, qui accusait explicitement, alors vous voyez, bon, c'est dans un style un peu particulier avec des couleurs flashy, etc., qui accusait l'OMS au fond de militer pour des campagnes de vaccination mondiale pour affaiblir les populations. Pourquoi ? Parce que l'OMS était accusée soit de glisser dans les vaccins une petite puce sous-cutanée et donc qui permettrait de contrôler les individus, contrôler leurs pensées, etc., soit même l'OMS était accusé dans ce... Vous voyez, il y a marqué une pandémie programmée par l'OMS. Bon. L'OMS était accusé de vacciner avec un produit extrêmement nocif qui, au fond, ferait du mal aux individus et puis les endormirait, ce qui leur éviterait d'avoir à se révolter contre leur population, avec comme objectif quoi ? Eh bien, de prendre le contrôle. Et donc voilà, Margaret Chan, qui est la directrice, la présidente de l'OMS, qui était bombardée, la prochaine reine du monde, avec un vocabulaire un peu ancien, comme ça, voilà, et avec une photo d'elle moyennement avantageuse. Bon, et le comploteur, ça va être aussi les puissances de l'argent, voilà, qui sont introuvables, impénétrables et qui vont en réalité régner et tirer les ficelles des politiques et des journalistes. Donc on voit bien que les groupes qui sont accusés ont évolué au cours du temps, mais leur fonction est toujours la même, ils ont toujours une fonction de déstabilisation du système tel que nous le connaissons. Le XXe siècle a été un siècle plutôt propice à diverses théories du complot, et un même événement a pu donner lieu à des théories du complot concurrentes. Alors je vais les mentionner sans pouvoir les développer. Le mythe des 200 familles, de ce qu'on a appelé les gros, là je vous ai mis la couverture du très beau livre de Pierre Birnbaum qui a travaillé sur cette question-là, le peuple et les gros étant ces 200 familles ou ces 300 familles qui régneraient sur les destinées françaises. Il l'a, Pierre Birnbaum, réédité ce livre récemment sous un autre titre, Genèse du populisme. Dans le cas de l'assassinat de Kennedy, on a eu droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories du complot. Là, je vous ai mis un dessin représentant l'itinéraire de ce que les complotistes appellent la balle magique, c'est-à-dire le fait qu'ils s'interrogent sur le fait qu'une même balle aurait à la fois blessé l'homme qui était devant Kennedy tout en le contournant pour aller taper Kennedy à la base du cou. Bon, je rentre pas dans ce débat qui a produit une littérature considérable. Simplement, l'assassinat de Kennedy, c'est un moment assez matriciel pour le développement de ces théories du complot. On avait dit que c'était une action de la CIA parce que Kennedy voulait la remanier suite à l'échec du débarquement dans la baie des Cochons. On avait dit que c'était une action du FBI, que c'était l'action du complexe militaro-industriel, une action de Fidel Castro, une action pour empêcher qu'on sache que les extraterrestres s'étaient posés à Roswell en 1947 parce qu'apparemment Kennedy s'apprêtait à le dévoiler. Bon, vous avez tout, voilà. Autre grand complot qui a eu beaucoup de succès au XXe siècle, la théorie les Illuminati de Bavière, qui a été remis au goût du jour, donc une société secrète créée il y a très longtemps et dont les membres se connaîtraient mondialement et là aussi veilleraient aux destinées du monde, qui a été remise au goût du jour par Dan Brown dans le David Chicot et qui a un succès très fort, y compris dans les écoles françaises aujourd'hui, alors que c'est une théorie un peu, enfin c'est une vision un peu, un mythe un peu ancien. Je vous en parlais en introduction. Autre vision qui a bien marché, celle d'un Américain qui s'appelle David Icke, I-C-K-E. Et lui, son idée, c'est que les élites mondiales seraient des extraterrestres, des grands lézards, ou bien que les élites mondiales seraient des hommes, mais alliés avec des extraterrestres qui auraient débarqué pour prendre un contrôle mondial. Il produit des livres, hein, il a un succès fou, c'est traduit dans plein de langues, il gagne très très bien sa vie, ça marche bien, il fait plein de conférences, voilà. Donc ça nous fait rire, ça marche bien. Bon. Et puis au XXe siècle, au début du XXIe, les visions très complotistes du 11 septembre, j'en redirai un mot très rapidement. Au XXe siècle, une des théories qui a eu un très très grand succès, enfin en tout cas un des mythes qui a eu un très très grand succès, c'est les protocoles des sages de Sion. On va s'y arrêter un tout petit peu dans cette troisième partie. Donc les protocoles des sages de Sion, je vous ai mis une couverture française relativement neutre et une autre qui va jouer sur la caricature du juif dominant le monde de ses mains crochues. Et puis vous avez deux livres, il y a une littérature très 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 abondante d'analyse, mais il y a deux livres importants, Norman Cohn qui est vraiment le grand spécialiste des protocoles, et puis le livre plus récent de Pierre-André Taguieff, et puis vous trouvez, dessiné par Will Eisner, une histoire illustrée des protocoles qui est une bande dessinée très très intéressante. Alors les protocoles des sages de Sion, c'est un pamphlet qui est publié en 1903 qui entend dévoiler un plan de domination mondiale élaboré par une secte juive, les sages de Sion. Et donc le livre révèle l'existence de ce complot qui vise à fomenter des révolutions dans tous les pays pour que cette secte juive puisse prendre le pouvoir et instaurer un roi des juifs mondial. Alors repensez à la photo de Margaret Chan, la reine du monde, voyez le vocabulaire circule. Ce pamphlet-là, ce texte-là des protocoles est un faux, un texte de fiction qui a été forgé par la police secrète russe, l'Okhrana, police secrète russe, rédigé par un certain Mathieu Golovinsky, qui s'est inspiré d'un ancien livre de Maurice Joly, un livre français qui s'appelait « Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Bon. J'accélère un tout petit peu, il va jouer sur la vieille tradition d'accusation contre les juifs, le juif menteur, etc. etc. Mais l'idée aussi, c'est que il y a effectivement les juifs derrière, mais il y a leur bras armé, ou leur bras un peu plus visible, qui est la franc-maçonnerie. Et donc Taguieff dit que c'est à ce moment-là, avec les protocoles, qu'on va commencer à avoir cette expression, ce moment de l'amalgame, qui va être le complot judéo-maçonnique, qu'on connaît jusqu'à nos jours, en tout cas dans les expressions, qui se fait à partir de ce moment-là, à partir des protocoles. Pourquoi est-ce qu'on a forgé ce faux ? Premier élément évidemment basique, si j'ose dire, c'est nourrir un imaginaire anti-juif en Russie. Mais le deuxième élément qui est mis en évidence par les gens qui ont travaillé sur les protocoles, c'est qu'il s'agit pour la police secrète du tsar de dénoncer, alors voilà, par ce biais-là, les politiques de libéralisation politique du tsar qui inquiètent beaucoup. Donc encore une fois, les protocoles sont une arme politique. Les théories du complot sont des armes politiques. Dénoncer les dénoncer les politiques de libéralisation du tsar en montrant qu'elles obéissent à un plan secret, qu'elles vont léser la Russie, etc. Bon. Ça fonctionne à la révélation, j'y reviendrai sur d'autres cas. Très vite, dès 1921, il est prouvé que les protocoles sont des faux. mais ils vont extrêmement bien marcher, entre guillemets, jusqu'à nos jours. En Russie, le tsar, qui ne voit pas que ça le vise indirectement, va autoriser leur diffusion. On parle donc à partir des années 1903, 4, 5, de 14 millions d'exemplaires donc en circulation en Russie. Ça va être traduit, ça va arriver en Europe. Et un certain nombre d'esprits vont se convaincre de la véracité des protocoles, vont se convaincre qu'il y a parmi eux des sages de Sion, et par exemple le premier ministre britannique, rétrospectivement Benjamin Disraeli, va être identifié comme un sage de Sion, la famille Rothschild va être identifiée comme appartenant à ce groupe-là, et on pensera à l'assassinat en Allemagne le 24 juin 1922 du ministre des Affaires étrangères, Walter Rathenau, par deux nationalistes qui étaient convaincus qu'il était un sage de Sion parce qu'il avait, au cours d'un discours, dit, mais c'était pour le dénoncer, que dans son esprit, 300 familles ou 300 personnes présidaient aux destinées du monde. Et donc, ces assassins ont considéré qu'il faisait partie de ces 300 personnes et qu'il fallait l'abattre. Les nazis, et les nazis de premier plan, hein, Goebbels, Himmler et Hitler avaient lu les protocoles, les étudiés. Et Hitler considérait que ça avait été pour lui une lecture décisive, qui avait même été une des justifications de son action dans cette lutte à mort qu'il a entrepris contre les juifs et qu'il a entrepris contre une prétendue domination juive. Les protocoles ont eu ensuite une vie, ils circulent aujourd'hui au Proche-Orient et au Moyen-Orient, ils ont été traduits en français au Liban, ils ont fait l'objet d'une adaptation en série de 42 épisodes en Égypte, ça s'appelait le cavalier sans monture, donc c'est pris comme voilà, une source fiable et une source qu'on peut utiliser et qui évidemment aujourd'hui est incorporée dans un certain nombre d'outils de propagande pour dénoncer soit un complot juif mondial, soit l'État d'Israël comme tête de pont de ce complot juif mondial. J'avance un peu pour vous dire quelques mots sur la mécanique de l'imaginaire complotiste ou les mécanismes de l'imaginaire complotiste. On est typiquement dans ce que le philosophe Manès Sperber appelle une conception policière de l'histoire. La conception policière de l'histoire, c'est considérer que s'il y a un événement, pour le comprendre, il faut comprendre à qui il profite. La conception policière de l'histoire, c'est vraiment comprendre à qui profite l'événement, qui est retraduit toujours sous la forme d'un crime, à qui profite le crime. Donc Taguieff dit, je vais vite là-dessus, que les quatre principes structurants des récits conspirationnistes sont les suivants. Rien n'arrive par accident, voilà, rien n'arrive par accident. Tout ce qui arrive est le résultat d'intentions cachées. Voilà, rien n'arrive par accident, tout ce qui arrive est le résultat d'intentions cachées. Rien n'est tel qu'il paraît être, donc il faut se défier des apparences, rien n'est tel qu'il paraît être, et tout est lié, mais de façon occulte. C'est-à-dire que tous les événements qui arrivent dans une société ou dans le monde sont liés, mais de façon occulte, on ne voit pas les liens, qui peuvent exister. Donc on voit bien comment cette vision policière de l'histoire va permettre pour un certain nombre de gens, encore une fois, de comprendre le monde social, de comprendre le fonctionnement du monde social. Alors brièvement, autre mécanisme. On est dans des théories qui se donnent une apparence scientifique. Quand vous lisez la littérature conspirationniste, il y a des notes de bas de page, c'est sérieux, on a fait des films, on est allé interviewer des scientifiques ou des pseudo-scientifiques, on refait des maquettes en carton pour les tours du 11 septembre, etc. Bon, voilà. Il y a une apparence scientifique parce que nous sommes dans des sociétés de la raison et que les gens qui sont dans ces discours-là savent qu'un discours qui n'a pas les apparences de la rationalité ne passera pas et ne pourra pas être convaincant. Deuxième mécanisme, il y a une forme d'imperméabilité à la contre-démonstration. Les discours complotistes sont virtuellement inarrêtables. C'est très compliqué, voilà, parce que ça relève de la croyance. Donc par exemple, dans le cas des protocoles des sages de Sion, même si on dit aux gens qui sont convaincus par ces protocoles que ce sont des faux, ils vont dire « c'est peut-être des faux selon la lettre, mais ce sont des vrais dans l'esprit ». C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est dénoncé est vrai, même si ce qui a été écrit, même si cet objet-là est un faux. Tant pis, autre argument de leur côté, tant pis pour les protocoles, il y a bien un complot juif mondial, donc on s'en fiche de ce texte-là. Bon. Ou bien encore, si les protocoles ne décrivent pas une réalité, puisqu'il n'y a pas apparemment de domination juive mondiale, ils sont une prophétie, donc ça va se réaliser. Ce qui compte donc, c'est la théorie avec un grand T, peu importe les choses qui ne rentrent pas forcément très très bien dedans. Et puis j'ai oublié le deuxième point qui était l'appui sur des incohérences. Là, effectivement, il suffit qu'il y ait un décalage entre deux témoignages, un décalage entre deux heures, et là, on va s'engouffrer en disant « c'est incohérent, c'est monté, c'est une mise en scène, etc. » Bon, vous avez compris l'idée. Autre mécanisme, la réduction du nombre d'interprétations, c'est-à-dire que la réalité est extrêmement complexe. Dans le cas des discours complotistes, on va tout résumer et tout faire reposer sur une causalité unique. Donc on a des mécanismes qui sont monocausaux. Ils ont une seule cas, ils ont une seule cause, et donc ils ne sont pas le fruit d'une série d'actions, d'accidents, d'une série d'activités, d'une pluralité d'acteurs. Et puis, l'autre mécanisme vraiment le plus important, c'est la révélation. Voilà, le dévoilement. C'est ça qui fait le succès, c'est ça qui fait la séduction trouble des théories du complot. On va transformer les faits en des signes. C'est-à-dire que dans les discours conspirationnistes, tous les faits sont des signes du complot. Et ces signes, si on sait les lire, permettent de dévoiler le complot, de décrypter ce qu'on ne voit pas, donc de décrypter le monde social et de ne pas s'arrêter à l'apparence. Bon. Et donc on va tout interpréter, et tout fait signe, hein. Le discours d'un homme politique, la présence d'un triangle maçonnique, d'un compas, d'un œil. Bon, je vous ai apporté deux exemples très anecdotiques que vous connaissez, parce qu'on fait toujours cette blague, enfin on les faisait en tout cas dans les dîners, donc c'est voilà. Le paquet de Marlboro, j'ai pris juste, il y en a, voilà, il y en a plein qui accusent Marlboro d'être aux mains en réalité du Ku Klux Klan américain. Et donc dans le premier cas que vous avez à gauche, donc il faut quand même, pour dévoiler les signes, il faut en fait les voiler, puisqu'on va donc mettre une bande noire, et dans cette bande noire on va voir que sont pendus, dans les gens qui croient à ces théories là, on va voir les jambes pendantes d'un noir et d'un juif. Ne me demandez pas lequel est le noir, lequel est le juif, je n'en sais rien, mais on voit juste leurs jambes, ils ont été pendus, puisque c'est le désir du Ku Klux Klan. Et ensuite, quand on prend les trois côtés du paquet, la lettre K semble apparaître et donc signifier, vraiment au sens de signe, que ça appartient au Ku Klux Klan, qui donc va dévoile discrètement dans les paquets de Marlboro sa présence et sa mainmise là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que officiellement, le complot est invisible et caché, et pourtant, le complot transpire. Il transpire de partout. Il sort de partout. Il suinte pour qui sait l'observer. Donc il faut savoir, il faudrait savoir repérer et décoder les signes. Et donc on voit bien que le discours conspirationniste est un discours qui sert à séparer les initiés et les profanes. Il y a les initiés qui connaissent le complot. On ne leur fait pas à eux. Ils connaissent le complot. Ils ont été initiés parce qu'ils savent décrypter. Et il y a les profanes, la masse aveugle à sa propre domination. Donc il y a dans les mécanismes du complot quelque chose de mystique, ou en tout cas quelque chose de l'ordre du réenchantement du monde. Le complotisme sert à réenchanter le monde. Mais c'est ambigu, parce qu'il va le réenchanter en disant « oui, il y a un monde derrière le monde », donc on s'apaise, ça y est, j'ai compris le fonctionnement du monde. Et en même temps, ce réenchantement, bah, c'est un désenchantement, puisque dans ce nouveau monde réenchanté, je n'ai plus mon libre arbitre. Et donc je suis privé, je suis dépossédé de quelque chose. Et donc ça peut me poser problème, parce que je voudrais pouvoir retrouver ce libre arbitre et donc éventuellement recourir à la violence contre les comploteurs, recourir à la violence contre ceux qui m'ont privé de mon libre arbitre. Puis dernier mécanisme, autre élément qui fait que ça a beaucoup de succès, tout est fait pour maintenir la croyance, tout est fait pour diffuser le discours conspirationniste. Et donc, on l'avait reçu il n'y a pas très très longtemps à Lyon, le sociologue Gérald Bronner essaie d'analyser hein, le succès ou la continuité de la croyance dans les discours conspirationnistes, et il dit, voilà, il y a ce qu'il appelle un biais de confirmation. Quel est ce biais de confirmation? L'idée est la suivante. Si quelqu'un n'adhère pas aux théories du complot, mais qu'il a un doute, alors, premier réflexe de nos générations, on va sur Internet et puis on tape 11 septembre, par exemple, et complot. Déjà, le choix des mots est un peu ambigu, mais après tout, pourquoi pas? Il va se dire, je vais tomber sur l'article d'un scientifique qui va lever toute ambiguïté. Pas du tout. En réalité, sur Google, dans l'ensemble des premières pages et sur la quasi-totalité des résultats qui vont être affichés par Google, il va tomber sur des sites conspirationnistes, parce que ce sont les plus fréquentés et ceux qui ont le plus de succès. Et donc, loin de se débarrasser de son doute, qu'est-ce qui peut se passer? Dans ce biais de confirmation, ça va confirmer qu'il y a un problème. Et donc, le complot va apparaître comme la seule explication, puisqu'elle a l'air d'envahir l'ensemble de ce nouvel espace public qui est devenu Internet. Donc on voit bien comment effectivement il y a ce qu'on pourrait appeler une offre complotiste, une offre de discours complotiste qui vont arriver jusqu'à nous même si on ne le désire pas. J'avance un tout petit peu dans un cinquième point. Je crois que j'ai pas fait de... Si, j'ai fait quand même un petit... Vous allez voir, tout va s'éclairer. J'ai fait un petit slide. Le 11 septembre comme matrice, parce que un certain nombre de théories du complot qui se sont développées à partir du 11 septembre ont vraiment servi de matrice à ce qui s'est passé dans l'après-Charlie. Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite à l'après-Charlie. Simplement, l'idée générale dans les discours complotistes autour du 11 septembre ont été d'aller chercher la causalité partout, sauf chez Al-Qaïda, ou sauf dans l'islamisme radical, dans sa version violente. On a essayé d'imputer la responsabilité des attentats à tout le monde, sauf à ceux qui apparaissent comme les principaux protagonistes. Donc on a dit, là aussi j'ai pris un cas un peu anecdotique, mais qui est intéressant, on a dit par exemple que le 11 septembre était une malédiction. Voilà. Et donc il faut trouver les preuves de la malédiction. Et donc a circulé sur Internet très vite le numéro de vol d'un des avions qui s'est encastré dans les tours du 11 septembre, qu'on nous a donc présenté comme étant le Q33NYC, NYC pour New York City. Je vous dis tout de suite, c'est pas le bon numéro de vol, mais on nous a dit que c'était le bon. Et on nous disait, puisque là aussi pour dévoiler il faut voiler, que si on tapait Q33NYC sur son ordinateur dans Word et qu'on transformait ces lettres-là dans une autre police de caractère qui s'appelle la police Wingdings et qui est une police d'icônes, eh bien voilà ce qu'on obtenait progressivement. Le Q se transformait en un avion, les 2-3 se transformaient en des tours dans lesquels un avion allait s'encastrer, provoquant la mort au nom des Juifs qui se réjouissent de ce qui vient de se passer. Bon, voilà, ça a très très bien marché au niveau viral, et voilà. Mais il faut quand même en passer par la police Wingdings. Autre option, eh bien des gens, vous savez, des fois quand on rêve, on donne des formes aux nuages, ben, ça marche aussi là aussi très très bien. On nous a dit qu'il y avait le visage de Satan dans la fumée qui apparaissait brièvement et qu'une photo a pu capturer dans la fumée d'une des tours du 11 septembre. Alors les images ne sont pas extrêmement bonnes, mais voilà, il y a celle-ci qui est... Alors je pense que ça a été un tout petit peu contrasté, hein, cette photo-là, pour vous montrer le visage de Satan. Bon. On a dit que c'était un coup des services secrets israéliens. La chaîne Al-Manar, qui est la chaîne du Hezbollah libanais, avait affirmé que 4000 employés israéliens du World Trade Center n'étaient pas venus travailler ce jour-là. Sous-entendu, ils étaient au courant, c'était pas du tout le cas, hein, mais sous-entendu, ils étaient au courant de l'imminence de l'attaque. Et donc c'était, dans ce discours complotiste, l'idée que c'était le Mossad, hein, les services secrets israéliens, qui avaient fait le coup. On a nié la matérialité des faits. Je rentre pas là-dedans, mais vous savez que Thierry Messant s'est fait connaître autour de ça en affirmant que c'était pas un avion qui avait heurté le Pentagone, mais un missile, que c'était un coup en interne, que c'était un coup d'une cinquième colonne de l'administration Bush pour justifier des bombardements. Bon, voilà. En tout cas, il y a vraiment et la dimension là un peu mystique et la dimension politique dans ces éléments-là. J'en viens quand même à ce qui est central. À ce qui est central aujourd'hui, c'est-à-dire la réactivation, parce que c'est pas l'activation, c'est vraiment la réactivation du conspirationnisme après Charlie. Je peux pas examiner tout ce qui a circulé, simplement les plus marquantes. J'en donne une ou deux sur lesquelles je vais pas m'arrêter, mais on a trouvé par exemple, parce que après on a du doute surtout, que François Hollande était quand même arrivé un peu rapidement sur les lieux après les faits, donc il est arrivé une heure après. Bon, voilà, ça paraît très rapide pour un certain nombre de gens. D'autres internautes, je le disais, alors on est là dans du discours, vous verrez, parfois construit, parfois moins construit. D'autres internautes, je le disais, ont soutenu que le policier intervenu sur les lieux, qui s'appelle Ahmed Merabet, qui avait été tué à bout portant par l'un des frères Kouachi, n'était en réalité pas mort. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il n'y avait pas de sang. Le film existe, hein, il n'a pas été passé par les chaînes françaises, mais il n'y a pas de sang derrière son crâne, donc c'était suspect, il ne s'est pas vraiment fait tirer dessus. Donc il y a l'idée qui va présider à tout, qu'on est en présence d'une mise en scène. Et donc le discours complotiste autour de Charlie et de l'hypercachère, c'est l'idée qu'on est en présence d'une mise en scène, que tout ça est une mise en scène. On va essayer de voir comment, quelles théories entre guillemets vont être échafaudées pour ça. Première théorie, le complot juif, donc on n'en sort pas, je vous disais que c'était quelque chose d'extrêmement plastique. Alors sur le site d'Alain Soral, le premier commentaire laissé à chaud suite à l'attaque contre Charlie Hebdo, commentaire non modéré encore jusqu'à il y a très très peu de temps. Là je vous ai fait une capture d'écran, on voit pas très bien, c'est tout en bas dans la partie bleue. Il y a fort à parier que les auteurs sont déjà à Tel Aviv. Bon, donc on a ça, c'est le jour même, on est une heure après les attentats. Sur ce même site d'Alain Soral, on trouve un article de Thierry Messant qui est rédigé le 7 janvier au matin. Enfin 7 janvier à 11h ou à midi, qui va immédiatement accuser l'axe américano-sioniste. Messant écrit: ce n'est pas au Caire, à Riyad ou à Kaboul que l'on prône le choc des civilisations, mais à Washington et à Tel Aviv. Et il conclut son article en disant: nous ignorons qui a commandité cette opération professionnelle contre Charlie Hebdo, mais nous ne devrions pas nous emballer, nous devrions considérer toutes les hypothèses et admettre qu'à ce stade son but le plus probable est de nous diviser, et ses commanditaires les plus probables sont à Washington. Bon. Donc on est dans une tradition anti-américaine, etc. Mais l'idée qui est intéressante ici, c'est que il faut être le premier à dégainer, si j'ose dire, pardon, mais il faut être le premier à donner sa lecture politique, à orienter le regard, non pas là où le discours officiel veut nous amener, mais vers autre chose qui va être ce qui se passe derrière les apparences. Donc on a l'idée là d'un complot israélien, et si la seule mention d'Israël ne suffit pas, il faut essayer de le figurer. Et donc à propos du grand rassemblement du 11 janvier, on a vu circuler sur les réseaux sociaux une carte du trajet de la manifestation. Alors il faut mettre le nord à la place du sud, il faut toujours faire une opération de dévoilement-revoilement, ou de revoilement-dévoilement pour dire, mais alors voilà, c'est en fait les frontières de l'État d'Israël qui apparaissent. Donc l'idée c'est qu'on est voilà, dans un, ça réactive au fond le pari ésotérique de Dan Brown où il y avait des pentagrammes partout. Et donc là, le trajet habituel des manifs parisiennes, République, Bastille, Nation, devient le signe d'une influence juive sur l'organisation même du mouvement, qui peut-être sans ça n'aurait pas eu lieu. Et un des commentateurs, là vous le voyez en haut, c'est un peu coupé dans le texte, tout pour plaire à Netanyahou, conclut un des internautes, voilà, qui reconduit la vision d'un complot juif français. Bon, ça vous avez peut-être suivi, c'est l'affaire des rétroviseurs, vous connaissez. Un certain nombre d'internautes vont se faire analystes d'images, et donc ils vont voir que les rétroviseurs dans la rue Nicolas Appert, qui est la rue de Charlie Hebdo, sont blancs dans une première photo, mais quand le véhicule est retrouvé abandonné par les frères Kouachi rue de Meaux, bah, bizarrement, les rétroviseurs sont devenus noirs. Bon, assez vite, il sera dit que c'était des rétroviseurs chromés, et effectivement, d'autres photos, par exemple celle-ci, qui est prise dans un autre angle de la rue de Meaux, montrent les rétroviseurs blancs ou chromés, c'était selon l'endroit où est placée la lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va faire de ce changement de couleur des rétroviseurs un élément qui trahit, un signe, qui trahit l'existence du complot, et donc l'existence que tout ça, en fait, a été monté par une officine qui va vouloir incriminer les frères Kouachi, qui a changé de voiture, donc ça serait une voiture, la voiture au rétroviseur noir, donc celle-ci, celle de droite, serait une voiture créée par la police elle-même, dans laquelle elle, enfin, amenée par la police elle-même, qu'elle va truffer d'un certain nombre d'indices pour incriminer les frères Kouachi et ne pas faire porter le regard sur elle-même comme officine. Et donc, parmi ces indices, la police va vouloir être très 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 zélée, et donc elle va notamment laisser la carte d'identité de Saïd Kouachi dans la voiture, et donc il y a cette idée de ce qu'on a appelé désormais la carte d'identité miraculeuse abandonnée par Kouachi. En réalité, dans ce qu'on a pu lire pour démonter ça, les frères Kouachi ont quitté le véhicule précipitamment puisqu'ils venaient de percuter un poteau, et ils avaient un sac, et donc il n'y avait pas que la carte d'identité, il y avait plein d'affaires à eux, dont la carte d'identité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie au passeport qu'on avait trouvé de Mohamed Atta dans les ruines du World Trade Center, et donc ça renvoie à l'idée qu'au fond, les comploteurs font toujours la même chose. Place toujours des indices pour incriminer comme le mouchoir de Desdemone. Et que donc, au fond, ça vient prouver la continuité d'un méga complot entre le 11 septembre et le 7 janvier. L'autre idée, toujours dans la mise en scène, c'est qu'on peut considérer, si tout est mis en scène, justement, que les frères Kouachi et Amédi Coulibaly ne sont que des pions dans une machination qui les dépasse. Et donc, quatrième théorie, on a eu la théorie selon laquelle Amédi Coulibaly était menotté quand il sort de l'hypercachère et qu'il est, à ce moment-là, tué par la police. Certains considèrent qu'il avait les mains attachées, ce qui était une manière de dire que tout ça, pareil, est une mise en scène, qu'on a placé un homme délibérément déjà menotté pour, voilà, d'abord le liquider, si effectivement il a été commandité pour ça, et puis pour donner le beau rôle à la police, faire en sorte qu'il ne parle pas, etc. Bon, les images sont vraiment de très 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 mauvaise qualité. Un certain nombre de journalistes ont fait une capture d'écran. Là, c'est la sortie de Coulibaly, c'est filmé de loin au téléobjectif. Les deux ronds indiquent qu'il n'a pas les mains, a priori, qu'il n'a pas les mains attachées, qu'il a les bras en l'air. Voilà, je passe un peu rapidement sur un autre cas parce qu'on manque de temps et je pense que vous voulez parler, que j'ai beaucoup parlé. Ça, c'est des images tournées par l'agence Première Ligne qui, vous le savez, partageait ses locaux avec Charlie Hebdo. C'est des journalistes de terrain. C'est beaucoup de gens, des anciens de CAPA, etc. Quand ils ont entendu les premiers coups de feu, ils ont revêtu, en tout cas pour certains d'entre eux, un gilet pare-balles, ils les ont sous la main. Et donc évidemment, là, un certain nombre d'internautes ont considéré qu'ils étaient prévenus de l'attaque. D'autres internautes ont considéré que les films qu'ils avaient tournés étaient de mauvaise qualité et qu'ils avaient donc brouillé l'image pour plaire à la DGSE. Donc il y a notamment un journaliste de première ligne s'appelle Martin Boudot, dont les images, c'est lui qui a tourné ça, ont été mises en cause par un site conspirationniste qui s'appelle le site Panamza. Je vous inviterai, quand ce texte-là paraîtra, d'aller voir la réponse très drôle de Martin Boudot, qui va faire ce que les Américains appellent du debunking, c'est-à-dire qu'il va démonter point par point et assez facilement tout ce que le site Panamza avait avancé. Mais ce qui est intéressant, et c'est simplement pour ça que je mentionnais le cas de Martin Boudot, c'est que le travail fait là, enfin, les accusations portées par les conspirationnistes, donc c'est des textes très très longs, ils vont vraiment faire des captures d'écran, etc. Ils n'ont jamais pensé, par exemple, à téléphoner à Martin Boudot ou à appeler Première Ligne. Donc on n'est pas en présence ni d'un travail scientifique, ni d'un travail journalistique. Le discours complotiste ne s'embarrasse pas du référencement, de la source, de l'enquête, de l'interview, et donc effectivement il y avait un certain nombre de points dans Panamza qui étaient absolument faux et qui auraient pu être démontés très facilement, qu'ils auraient pu même ne pas écrire s'ils avaient simplement appelé Martin Boudot ou des gens de Première Ligne. Mais évidemment vous voyez que c'est pas du tout leur intention n'est pas de faire une enquête mais de dénoncer un certain nombre de choses. Bon, voilà, donc là aussi on a dans l'après Charlie et après l'attentat de l'hypercacher essayé de trouver d'autres responsabilités que la radicalisation violente des frères Kouachi ou d'Amédi Coulibaly. Alors je voudrais terminer par quelques préconisations. On pourrait développer davantage et vous aurez peut-être des questions. Quelques préconisations dans le rapport qu'on peut avoir au conspirationnisme. Il y a toujours la tentation de le démonter, c'est-à-dire de le démonter point par point, et donc de faire appel à la rationalité, de montrer que c'est plus compliqué, etc. Bon, ça ne marche pas très bien, on y passe beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'ordre de la croyance ou de la conviction, et que la croyance est quelque chose qui est absolument inexpugnable dans l'esprit des gens, c'est extrêmement compliqué. Bon. Donc il faut peut-être... Je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire, mais peut-être qu'on peut dire autre chose. On peut d'abord dire que le monde social est complexe. Nous, on en a fait notre métier. C'est très compliqué de déplier le monde social. Le monde social est complexe et en tout cas, en permanence, il y a des millions d'intérêts individuels, des millions d'intérêts institutionnels qui se rencontrent, qui s'affrontent et que personne ne peut contrôler, au niveau national comme au niveau mondial. Donc il est impossible d'imaginer une manœuvre unique qui pourrait peser sur un monde social aussi complexe. Encore une fois, il y a des complots, il y a des intérêts, mais il n'y a pas une causalité unique dans le fonctionnement du monde social. Deuxième élément, et là on est plus dans le debunking, dans le cas des grands complots prétendus comme le 11 septembre, comment faire pour faire garder le secret à tant de gens ? C'est impossible, c'est-à-dire que nécessairement on trouverait à un moment ou à un autre quelqu'un qui a participé à ce grand complot, quelqu'un qui serait un repenti et qui viendrait en parler. On n'a jamais trouvé de gens qui pouvaient endosser ce rôle. De la même façon, quand les fuites et les révélations de Wikileaks sont sorties, qui dévoilaient des documents, des milliers de documents confidentiels, il n'y avait aucune référence à une organisation interne par l'administration Bush ou par un service secret du 11 septembre. Troisième élément, évidemment, et ça vous a traversé l'esprit, si le complot était si subtil, pourquoi le verrait-on si facilement ? Puisqu'après tout, c'est un complot qui ne fait que laisser des traces de sa propre existence et de son propre déploiement. C'est un peu étrange, un complot qui se donne à voir aussi vite. Quatrième élément, les conspirationnistes peuvent librement s'exprimer. Cinquième élément, dans un travail, je dirais, d'enseignement, j'ai pas pu le faire là complètement, on peut faire une sociologie. On a un jeune collègue docteur là en sciences politiques qui s'appelle Julien Giry, qui a fait une sociologie des militants et des responsables de la diffusion des discours conspirationnistes. Donc on voit que c'est porté par des acteurs politiques, c'est porté par des groupes, c'est porté par des associations, etc. Donc on peut faire une sociologie des individus qui portent le discours conspirationniste et notamment des groupes politiques qui portent le discours conspirationniste. Et donc il faut rétablir ces discours conspirationnistes dans leur dimension politique. Encore une fois, c'est pas un discours flottant, c'est un discours politique. Sixième élément, rappeler qu'on est en présence d'un objet de science sociale, objet ancien qui se réactive, je l'ai dit, objet connu. Donc dire qu'on est en présence d'un objet des sciences sociales et dire qu'on est en présence d'un objet qui est connu, c'est une manière d'atténuer l'effet de révélation pour ceux qui entendent, et notamment les plus jeunes, pour ceux qui entendent pour la première fois le discours complotiste. Ce discours complotiste, je l'ai dit, il est fascinant, il fonctionne à la révélation, il est réenchantant et désenchantant, mais en tout cas, il porte et il s'installe dans la mémoire. Il faut simplement dire qu'on n'est pas en présence d'un discours qui arrive d'un coup, mais que c'est un discours ancien, connu, sur lequel on a travaillé depuis longtemps. Et puis évidemment, alors là je fais encore plus mon prof, il y a des bouquins. Voilà, il y a des bouquins faciles d'accès. Il y a une, alors, aux États-Unis, il y a une littérature considérable. Je vous ai indiqué quelques livres. Là, j'ai mis deux livres de Pierre-André Taguieff, mais qui n'ont pas du tout la même taille. Ça ne se voit pas avec la couverture. Mais La foire aux Illuminés est une somme qui fait 500 ou 600 pages, tandis que L'imaginaire du complot mondial est un digest qui fait une cinquantaine de pages dans un petit format, donc tout à fait abordable. C'est très pédagogique, très documenté, très bien fait. On est dans l'histoire des idées, dans l'analyse des doctrines. De la même façon, dans la continuité, Taguieff a fait un court traité de complotologie. Et puis vous avez La société parano de Véronique Campion-Vincent, qui est une spécialiste des rumeurs et qui va notamment développer toutes les analyses autour du méga-complot, le méga-complot mondial. C'est-à-dire que le complot aujourd'hui, dans la vision de ceux qui y croient, est un complot mondialisé, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'OMS. Très facile d'accès, deux numéros, un premier d'un hors-série de l'histoire. Alors il est un tout petit peu ancien, il est sorti en 2006, mais il y a notamment une assez longue et intéressante interview de Marcel Gaucher sur laquelle je me suis appuyé, et puis là Diplomatie Magazine qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, donc avec un peu de chance vous le trouvez encore en stock ou en tout cas vous pouvez le commander facilement. Alors j'ai fait un article dedans, mais il n'y a pas que moi, alors je fais un peu de pub, mais voilà, c'est un beau numéro. Sur les théories du complot, avec vraiment le dernier état des recherches sur les théories du complot. Voilà, j'ai débordé sur mon temps de parole. Merci pour votre attention. C'était ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup.
Bien, alors on va comme d'habitude prendre des questions. Je regarde, j'ai de quoi meubler si vous devez réfléchir pendant un certain temps, mais ça sera peut-être pas le cas, non ? Personne pour le moment ?
Si,
il y a déjà une personne.
Il y a déjà deux personnes.
Ah, deux, il y a déjà deux personnes.
Bonsoir.
Déjà,
merci pour l'historique. Dans un domaine, déjà parce que j'étudie la psychologie sociale, le monde social, c'est très important, comme vous l'avez expliqué. Mais comment dire, plus psychologique, comment on le reçoit et comment après on le rejette dans le monde, c'est aussi très. Je veux dire qu'il n'y a pas que. Oh, vous n'avez pas expliqué comme ça, mais je veux dire que pas que le complot, êtes-vous des pauvres victimes. Donc, je veux dire qu'on y croit, je veux dire par là qu'il y a quand même réduction, accentuation, assimilation. Et ça, avec des guides d'opinion, qui ont souvent des proches. Et je veux dire que c'est parfois par là que ça. C'est pas. Justement, c'est comme on rejette la télévision, on est plus sur YouTube. C'est justement par les proches que ça nous touche. Je veux dire que parfois on peut en rigoler. Ça peut être marrant de voir sur YouTube, oh, l'autre il a fait ça, on a fait ça. Mais quand au bout d'un moment, une personne vous le dit, deux personnes vous le disent, et ces personnes font partie de votre groupe identitaire, ou de, parfois de votre famille même. C'est là que ça vous touche, et c'est là qu'au bout d'un moment où vous rentrez, peut-être pas sur le long terme, vous n'allez pas non plus devenir un maçon, c'est pas à ce niveau-là, je veux dire. Mais on va dire que ça va vous toucher, et que là, vous avez vous-même le répercuté sur la société. Donc je voulais mettre juste le point psychologique sur le domaine de avec des rumeurs du complot, de la communication sociale.
Vous avez complètement raison. Moi, j'y suis pas allé sur la psychologie sociale, faute de véritables compétences et de véritables qualifications, mais on a effectivement beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle les représentations sociales et un certain nombre de que les historiens appelaient les mentalités. On a aussi beaucoup de travaux d'anthropologie. Véronique Campion-Vincent, que j'indiquais tout à l'heure, elle est anthropologue au départ, mais elle s'est beaucoup intéressée à la circulation orale des contes, des rumeurs et de tout ce que ça pouvait porter, parce que ça fait partie, les contes, partout, hein, dans les sociétés traditionnelles et en Occident, font partie de la formation intellectuelle et du mode d'emploi de la vie des enfants. Donc c'est quelque chose de très important. Et vous avez complètement raison, à ceci près que dans le cas, par exemple, des théories du complot, ils ont un effet politisant. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais votre question me fait complètement penser à ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens vont se politiser par le biais des discours complotistes, vont effectivement développer une défiance à l'égard des médias officiels, même si ces médias ne sont pas officiels et appartiennent à des groupes de presse complètement différents, c'est pris comme un bloc. Et il y a effectivement le rôle de ce qu'on appelle les prescripteurs d'action, c'est-à-dire les entourages dont vous avez parlé, qui vont jouer un rôle très important d'édification, de politisation. Si ces entourages sont effectivement dans un discours conspirationniste, ça va circuler comme ça. Voilà. Et ça va, on va être en confiance, et ça va politiser comme ça. Donc il faudrait travailler sur ce qu'on pourrait appeler une écologie des rumeurs ou une écologie du discours conspirationniste, c'est-à-dire non pas travailler sur la réception par un individu, mais travailler sur des mécanismes collectifs d'élaboration et de diffusion des messages. Et là, je vous suis complètement. Et j'ajoute simplement, parce que j'en ai pas du tout parlé, parce que c'est encore un autre domaine, c'est effectivement la question du démenti, c'est-à-dire comment démentir un certain nombre de rumeurs ou d'allégations ou d'accusations quand elles ont commencé à circuler dans un groupe. Eh bien, les études montrent que malheureusement, le démenti n'est pas très efficace. D'abord, il y a un effet pervers. On a des études de Capferrer de Jean-Noël Capferrer sur la rumeur qui avait dit que Isabelle Adjani était morte ou qu'elle était malade ou qu'elle avait le sida, etc., etc. Bon. Les analyses de Capferrer, qui est spécialiste de la rumeur sur le démenti, ont montré qu'un nombre important de gens auxquels on montrait le démenti, eh bien, en fait, n'étaient pas au courant de la rumeur et apprenaient la rumeur par le démenti, donc on n'en sort pas, voire croyaient à la rumeur parce que le démenti leur apparaissait faible. Et donc, en fait, toute l'idée est là, c'est-à-dire qu'on adhère aussi à ces théories, je le disais, parce qu'elles sont séduisantes et parce qu'elles relèvent de la révélation, tandis que le démenti est faible. La rumeur de complot va vous dire « il y a un monde derrière le monde », c'est fascinant, on dirait un scénario de film, et le démenti va vous dire « ben non, en fait, il n'y a rien d'autre ». Donc le démenti est déceptif, nécessairement. Et donc on s'est rendu compte que le démenti ne marchait pas bien, qu'il circulait beaucoup moins bien dans le corps social, alors que les rumeurs peuvent circuler beaucoup plus largement. Alors on sait quand même que sur Internet, il y a des sites spécialisés comme Hoaxbuster, etc., qui systématiquement font un travail de pédagogique. Ils ne laissent rien passer. Donc systématiquement, ils disent telle rumeur, telle allégation, c'est un hoax. Ce qui vous permet d'éviter, quand votre beau-père vous envoie une chaîne magique ou un truc, une accusation, de dire à votre beau-père, ben non, en fait, sur Hoaxbuster, ça, on a montré que c'était faux. Et là, on va jouer sur l'aspect un peu ridicule de celui qui a fait suivre le premier message sans vérifier et qui a été quelqu'un de crédule. Bon. Donc on voit que dans certains cas sur Internet, quand un démenti un peu tournant en ridicule arrive immédiatement après le premier mail accusateur, ça marche mieux que des démentis lancés à la cantonade. Voilà, quelques éléments de réponse, je ne sais pas si ça... J'ai des questions.
Deux questions. Est-ce que vous pourriez préciser justement la sociologie, parce que vous avez dit qu'il y avait des chercheurs qui avaient fait une étude, mais sans rien dire. Donc,
sur quoi, la sociologie
de... Sur la sociologie des personnes qui croient au complot.
Okay.
Et l'autre question, c'est est-ce que là, tout d'un coup, les projecteurs, depuis janvier, les projecteurs sont tournés vers ces discours complotistes et donc ils semblent apparaître à plein de gens qui les découvrent, etc. Ou est-ce qu'ils sont quand même plus forts qu'avant depuis janvier, enfin, est-ce qu'il y a un crescendo ou c'est juste que tout d'un coup, nous, on les regarde?
Alors, sur la sociologie des croyants ou de ceux qui adhèrent à ça, en fait, le résultat est un peu contre-intuitif, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'études montrent que les plus diplômés, alors je n'ai pas les proportions, mais ne sont pas du tout épargnés et font partie des gens qui adhèrent à un certain nombre de rumeurs ou de théories du complot pour une raison simple, c'est pas que brutalement leur esprit critique s'est affaissé, c'est qu'en fait ils sont plus informés que les autres. Donc ils ont accès à plus de sources que les autres, et donc dans ce plus de sources, il y a effectivement des sources plus particulières ou des sources conspirationnistes que d'autres individus qui ont moins accès à l'écrit ou qui sont moins dotés en capital culturel ne vont pas avoir. Et donc les diplômés sont très traversée, et traversée comme les autres. Alors, je ne sais pas s'il y a une surreprésentation des diplômés, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'était, il faut simplement tordre le cou à l'idée que ce ne sont que les plus jeunes, les moins dotés, dans les quartiers défavorisés, etc., qui adhèrent à la théorie du complot. On n'a pas d'études aussi fines que ça. Ça reste à faire. Oui, les plus jeunes dans les quartiers difficiles, etc., sont vraiment traversés par ça parce que c'est vraiment leur accès au monde social, mais il n'y a pas que. Et donc là, le seul résultat, mais qui va être décevant pour vous, que je peux vous donner, c'est que ça traverse, ça touche toutes les couches de la population. Voilà, c'est pas, personne n'est épargné.
Peut-être juste un point, tu as parlé à un moment donné d'une, presque d'une prosopographie des groupes. Si tu peux peut-être en dire.
Alors c'était, moi c'était plutôt dans l'esprit des groupes qui diffusent ça. Et donc ce qu'on remarque, alors on a des, là on a aussi un, quelques travaux, ce qu'on remarque c'est que vont utiliser le discours conspirationniste les groupes, des groupes plus faibles, des groupes politiques plus faibles, ou des partis politiques plus faibles, ou des officines politiques plus faibles, c'est-à-dire qui ont moins accès que d'autres, voire qui n'ont pas du tout accès à l'espace politique ou à l'espace médiatique, et qui par le biais, c'était ça l'idée, hein, par le biais du discours conspirationniste, vont y accéder. Voilà. Et si on prend le cas, par exemple, de Thierry Messan, il a un parcours très, très compliqué et chaotique, mais il va à un moment, donc en 2002, publier un petit livre dans une petite maison d'édition complètement inconnue qui s'appelle les éditions Carnot, et il va bénéficier de la caisse de résonance extraordinaire qui était à l'époque l'émission de Thierry Ardisson, tout le monde en parle, en deuxième partie de soirée sur France 2, qui était une émission très regardée et très prescriptrice d'action. On le connaît pas du tout, quasiment pas, mais sans quand il arrive, et là, il va exploser en termes de vente et faire exister ce discours autour du 11 septembre qui n'existait pas, et par la suite, on apprendra que Thierry Messan était très proche de l'Iran, était très proche du Hezbollah, etc. Et qu'en fait, il est, voilà, il est le représentant de ce courant-là qui n'a pas droit de citer dans les médias français comment exister par le biais de la rhétorique du complot. Donc ne me demandez pas si Thierry Messan croit réellement à ce qu'il dit, etc. Je ne me suis pas du tout situé sur ce terrain-là pour des raisons que vous imaginez. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que ça fait exister politiquement des groupes qui étaient jusque-là plutôt marginalisés. On sait que Internet a fait exploser, a donné une audience à des groupes qui étaient vraiment, pour le coup, groupusculaires, mais qui, là, vont trouver un média gratuit. Voilà. Donc, là, il y a un effet Internet extrêmement fort. Sur la question de ça explose maintenant, est-ce qu'il y en a plus, est-ce que, bon, c'est une question qui est extrêmement compliquée. Moi, j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait des théories, il y avait des analyses complotistes depuis très très longtemps. Sur le passé ancien, on ne les a pas nécessairement mesurées, donc il y a eu sans doute plein de choses qu'on n'a pas forcément intégrées dans de quelconques statistiques puisqu'on n'en faisait pas. Là, je dirais qu'il y a une visibilité plus forte. Je ne suis pas capable de vous dire s'il y en a plus ou pas. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une visibilité qui est beaucoup plus forte et qu'il y a des événements qui, pour des raisons qu'il faudrait travailler, donnent prise à des théories du complot. Et à ce moment-là, là, on a un effet de masse sur certains événements. Mais d'autres non. C'est-à-dire que, par exemple, le 11 septembre donne lieu à des théories du complot très raffinées, très complexes, avec toute une littérature. Les attentats de Londres et les attentats de Madrid, non. Donc il faudrait travailler sur le moment, les conditions de cristallisation de discours complotistes autour d'un certain nombre d'attentats ou d'événements, et pourquoi eux et pourquoi pas d'autres. Moi, j'avais travaillé sur les rumeurs et on me demandait souvent s'il y avait plus de rumeurs avant qu'aujourd'hui. C'est terrible parce qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui mesurait quantitativement les rumeurs au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Simplement, il y a une visibilité beaucoup plus forte. Et dans le cas, par exemple, depuis qu'Internet existe, le point vraiment central, c'est qu'il y a une pérennité et il y a des traces de tout ça. C'est-à-dire que la rumeur était orale. Elle devient aujourd'hui écrite. Les chaînes magiques, on recevait une lettre qui vous disait « Faites suivre cette lettre à 10 personnes, sinon, enfin, recopiez-la, sinon vous allez mourir dans l'heure, etc. » Bon, alors, les gens étaient très angoissés, donc ils les donnaient aux curés, et les curés les brûlaient, et ça annulait le sort. Mais, donc tout ça a disparu, ça n'a pas laissé de traces. Aujourd'hui, il y a des chaînes magiques sur Internet, donc on les a, elles laissent traces. Et donc là, leur visibilité est plus forte. Leur nombre est-il plus fort? Je ne sais pas. Leur visibilité est plus forte, et leur... le fait qu'elle laisse des traces sur lesquelles nous, en plus, on peut travailler, ce qui est super, ça, pour le coup, c'est très visible. Donc, il y a une visibilité plus forte, en tout cas. Je sais que c'est une réponse un peu décevante, mais...
Il y a une dame là, voilà, après là-bas, après là et là. Hein, on fait dans l'ordre comme ça, d'accord?
En tout cas, pour l'instant, on peut parler, je vais entendre. Alors, vous avez mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans tous ces complots. J'ai compris qu'il y en avait certains qui étaient politiques, j'en comprends la raison, notamment le 11 septembre, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait, il y en avait un peu trop à mon goût, si vous voulez. Je ne pense pas non plus qu'on soit dans un monde où tout est beau, tout est gentil, et qu'on n'ait plus le droit de penser. Et voilà, j'arrive pas bien à m'exprimer. Mais par exemple, il m'a semblé qu'à un moment, vous avez parlé de l'Europe, ou en tout cas des sociétés multinationales. Il m'a semblé que ça a glissé dans toute votre énonciation des divers complots. Mmh. Alors, autant pour le Vinci Code, je vous suis complètement, etc. Pour d'autres, je suis plus sceptique. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait ce qu'on appelle en terre un amalgame.
Alors, non, il n'y a pas d'amalgame, sinon peut-être si vous le faites, mais c'est pas du tout cette idée-là. C'est-à-dire que, et j'avais commencé par là, il ne s'agit pas de nier qu'il y ait des intérêts institutionnels, qu'il y ait des intérêts politiques qui soient défendus, qu'il y ait des institutions qui les défendent et qu'il y ait des organisations qui, quand on fait une sociologie des organisations, on sait très bien que les organisations vont finir par poursuivre leurs propres intérêts plutôt que les intérêts de ceux pour lesquels elles sont fabriquées. Il suffit d'avoir eu affaire à une bureaucratie universitaire ou quelconque pour voir que le service auquel vous vous adressez fonctionne pour lui-même et que quand vous arrivez, vous le dérangez. Bon. Donc ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est pas le fait que des institutions, à certains moments, deviennent dominantes, défendent des intérêts, agissent de manière limite, illégale, etc. Ça, je peux vous suivre complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est un grand discours et un grand récit qu'on va faire fonctionner à partir de ces organisations, ou un comportement qu'on va prêter à ces organisations. Ça, c'est pas du tout la même chose. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je vous ai donné beaucoup d'exemples de théorie du complot, c'est comment cet imaginaire du complot, c'est-à-dire cette manière de lire le monde social comme étant le fait systématiquement de groupes d'hommes qui vont tout contrôler, comment cet imaginaire du complot va venir se fixer sur des objets ou se fixer sur des points précisément de fixation, dont les institutions internationales. Voilà. Et c'est dommage que j'ai pas pu vous passer le PowerPoint complet, je ne l'ai pas là, mais le PowerPoint complet de l'OMS, parce que vous verrez qu'il y a un fossé entre la critique possible de l'OMS qui est une grosse structure, qui tarde à réagir, qui va plutôt faire des préconisations pour les pays occidentaux et réagir complètement à rebours, enfin avec retard quand il va s'agir d'Ebola, et le contenu, donc il y a un fossé entre cette critique-là d'un fonctionnement institutionnel et le contenu du PowerPoint qui était une suite d'accusations délirantes dont l'OMS était l'objet, mais où vous-même, vous ne vous seriez pas du tout retrouvé. C'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec la critique qu'on peut porter sur le FMI, l'OMS, etc. Voilà, c'était vraiment ça, mon idée. Donc, vraiment, pas d'amalgame, mais un imaginaire qui se déploie sur des objets différents. Voilà.
Juste un point sur cette... sur cette question-là, parce que c'est important. Il y a ce petit livre qui vient de sortir, hein, qui est un très bon livre, hein, que je vous conseille d'acheter, d'autant qu'il est très peu cher, qui a été écrit par un historien, Patrick Boucheron, et un écrivain, Mathieu Régoulet. Ça s'appelle « Prendre date » avec un S, Paris 6 janvier, 14 janvier 2015. Voilà ce qui écrit, je crois que c'est Patrick Boucheron qui l'écrit, mais peu importe, un des deux. Et il parle, il se remémore l'attentat de la rue Copernic, voilà, le 3 octobre 1980. Pour les plus vieux d'entre nous, ça rappelle les paroles de Raymond Barre de l'époque. Voilà, ces attentats odieux qui voulaient frapper des Israélites, et qui avaient pu frapper des Français innocents. Voilà, il avait dit ça quand même. Et voilà ce que commente Patrick ou Mathieu. Car l'histoire était alors bien embrouillée entre terrorisme pro-palestinien, barbouze et groupuscules nazis. Allez vous étonner, après cela, que les gamins d'aujourd'hui court-circuitent leur ignorance en cherchant partout des complots. Il serait plus facile de les en dissuader tout à fait si notre histoire contemporaine était exempte de ces complications, double jeu et coups tordus, si les services secrets n'existaient pas, si les gouvernements ne mentaient jamais, si leurs intentions étaient toujours celles qu'ils affichaient en toute transparence lorsqu'il s'agit d'engager la nation dans un conflit. Vous vous souvenez de la première guerre du Golfe? Je pense que ça répond à votre question. Voilà. Je voulais vous lire ce passage. Et c'est oui, tout à fait en harmonie, je pense, avec ce que pense Emmanuel. Voilà.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y a de plus en plus dans un certain nombre de groupes ce que j'appellerais des formes informelles d'accès à l'information ou des formes informelles de politisation. C'est-à-dire qu'on va on ne va plus du tout faire confiance aux médias ou aux hommes politiques parce qu'on les amalgame pour le coup et on les met tous dans la même couche et qu'effectivement ils ne vont, malgré leurs différences apparentes, ils ne vont porter qu'un même discours. Donc on va aller s'abreuver à d'autres sources. Et donc on va aller s'abreuver, notamment dans la génération qui a 25-35 ans, sur Internet, sur YouTube, dans tous ces éléments-là, où on va retrouver un entre-soi, et donc un confort, et donc une confiance, qui est extrêmement marquée. Et on sait qu'un certain nombre de gens se politisent. Alors on a vu des travaux, c'est un peu ancien maintenant, sur les guignols de l'info, donc on savait qu'un certain nombre de jeunes se politisaient par les guignols de l'info. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de jeunes se politisent par le biais du petit journal de Yann Barthès, qui d'ailleurs, lui, dit qu'il essaie de faire œuvre pédagogique, etc., mais c'est une forme de politisation particulière. Donc, effectivement, quand les théories du complot arrivent, elles ont ce pouvoir de séduction, et de toute façon, le démenti, comme il passera par des canaux officiels, n'aura aucun effet, et donc on va rester dans un entre-soi, avec un langage codé, avec les mêmes inquiétudes, voilà. Donc oui, complètement, complètement.
Allez-y. On passe à l'autre côté de la salle.
Merci pour votre exposé. Je suis extrêmement intéressé par les mécanismes que vous avez dégagés, d'autant plus que tout cela vient entraver l'action sociale. Et je veux dire que vous avez signalé que le pouvoir a largement utilisé les complots, les juifs, les francs-maçons, etc. Mais aujourd'hui encore, on a eu ces discours, bon, je ne les recite pas, ils sont bien, bien connus. Donc aujourd'hui encore, le pouvoir est un producteur de complotisme et entretient des contradictions entre son discours et les effets réels de son action, entre les préambules des lois et les effets de ces lois. Donc, l'ensemble est extrêmement brouillé, et quand vous attirez l'attention sur l'interrogation sur ce qui peut amener un grand nombre de personnes à s'orienter vers tel ou vers le complotisme, ça me paraît correspondre au fait qu'il n'y a pas d'offres politiques alternatives mobilisatrices. Et il faudrait regarder, de ce point de vue-là, pourquoi les attentats qui ont eu peu d'écho, Madrid, au plan complotisme, hein, est-ce que ce n'est pas parce que dans ces pays, à ces moments-là, il y avait d'autres offres plus fortes d'action sociale?
Ou des groupes complotistes plus faibles et moins organisés qui n'ont pas réussi à prendre la parole. En tout cas, sur la première partie de votre intervention sur le fait que l'action sociale est entravée, moi, en tout cas, une inquiétude et qui m'a amené à travailler sur ce sujet-là, c'est qu'au fond, les théories conspirationnistes, elles me semblent quand même, je reste prudent, mais elles me semblent quand même porteuses d'une violence sociale et porteuses d'une violence entre groupes. C'est-à-dire que si on ne cesse de vous dire que tel ou tel groupe dans la société est le groupe par lequel tous vos malheurs arrivent, ou sont les groupes qui vous ont entravé, ou sont les groupes qui contrôlent vos destinées de votre naissance à votre mort, ça fabrique du ressentiment, ça fabrique une vision qui peut aboutir à une violence politique entre groupes. Et dans une société française aujourd'hui comme la nôtre, peut-être que ce discours-là, il faut le prendre au sérieux dans le fait qu'il peut être la matrice d'une violence que personne n'a envie de voir émerger. Et donc, si l'action sociale est entravée, ce discours-là peut effectivement se déployer beaucoup plus qu'il ne devrait.
Bonjour, merci pour votre intervention. En fait, je vais rebondir sur plusieurs interventions du public et aussi pour répondre à la question de ce que je pensais de ce cycle de conférences, des après. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter après? Alors, en fait, moi aussi j'ai tilté sur l'OMS, j'ai mieux compris que vous avez pris un exemple du discours tenu sur l'OMS, et la question de la critique possible, des critères d'énonciation et de la performativité d'un discours qui peut être tenu ou pas tenu, et de la manière de le décrédibiliser, pose question. Et en fait, ce qui m'interpelle, moi, mon centre d'intérêt, c'est où se trouve la frontière du politique entre un discours complotiste et un discours caché face à un discours dominant. Et donc, c'est l'exemple, c'est James Scott, et c'est l'exemple de l'OMS, la critique de l'OMS face à un discours que l'on n'entend pas. Où est-ce qu'on atteint l'espace public? Donc ça, c'est plutôt un débat scientifique. Et l'après de ce cycle de conférences que je trouve vraiment intéressant, c'est comment... moi, ce qui m'a attiré dans cette conférence, dans l'intitulé de cette conférence, c'est comment discuter et comment faire cohabiter des discours différents, sans forcément les stigmatiser, mais aller vers ces discours pour arriver à parler ensemble. Comment on va chercher à cohabiter avec des discours qui s'affrontent, et comment on va chercher à trouver un terrain d'entente à travers des mots qui ont le même sens pour les personnes qui s'opposent. Parce que là, on est même plus dans une discussion, on n'est même plus dans les termes d'un débat, où on peut discuter l'un avec l'autre. L'autre qui a un propos tellement en dehors de ce qu'on est capable de recevoir, que le discours ne peut pas s'établir. Et à mon avis, c'est un des grands enjeux de l'après de ces attentats, c'est comment construire, je vais dire un gros mot, du vivre ensemble, parce que c'est des notions qui ont été galvaudées en entreprise, mais comment construire du... je m'arrête là, c'est pas un débat scientifique sur le vivre ensemble.
Ce n'est pas une expression galvaudée, hein, le vivre ensemble. Moi, je suis prêt à vous suivre et à le construire à la fois comme objet réel, objet scientifique. Je suis complètement... Je ne sais pas si je peux complètement répondre, c'était plus des remarques, mais je crois que la frontière entre le discours complotiste et le discours critique, pour le coup, c'est scientifique. C'est-à-dire qu'il faut appliquer une grille, et j'ai essayé de vous donner des éléments qui vous permettent de dire là, on est plutôt dans le complotisme, et là, on est plutôt dans la critique classique, légitime, dans une société... d'une société pluraliste. Vous avez fait mention de James Scott, peut-être que vous pensiez au script caché ou à l'infrapolitique, mais l'idée de James Scott, c'est de dire si on y va, on le trouve. C'est-à-dire que ces formes d'action-là, elles sont visibles en réalité. Donc si on va travailler sur des groupes plus dominés ou sur des groupes dépossédés, on va les trouver. Il faut simplement porter le regard dessus. Par exemple, pendant très longtemps, les sciences sociales, les auteurs qui travaillaient sur les manifestations et sur les mobilisations contestataires ne travaillaient que sur ce qui était visible, donc les manifs, les sittings, etc. Et il leur a été reproché de ne pas travailler, par exemple, sur des formes plus souterraines de pétitions, de relations interpersonnelles qui existent, qui ne relèvent pas du tout du complot, mais qui, pour le coup, dans le radar... on ne mettait le radar que dans l'espace public visible, ça n'apparaissait pas. Quand on a changé les formes du radar, ou quand on a changé ce qu'il devait trouver, on a trouvé des formes souterraines d'action, dont tous les mécanismes de l'infrapolitique de James Scott. Tu voulais peut-être répondre sur
Je pense que, juste, on va reprendre l'ordre après, mais il y a un point qui va être fait par le mouvement du 11 janvier qui a à voir avec votre question, je pense. Tu peux passer à Christine?
Oui.
Et on vous parlez après, hein, ça vous ennuie pas?
Je parle après.
Si ça vous ennuie pas, oui, comme ça, parce que je pense à une réponse, une des réponses possibles, hein, et vous parlerez tout de suite après.
Oui, alors c'est vrai, j'ai tout de suite pensé, c'est vraiment votre question, c'est tout à fait l'objet en fait de la création du mouvement du 11. L'idée, c'était de se dire, bon, tous ces gens qui sont allés spontanément dans la rue et qui ont rencontré une certaine fraternité, bon, c'était quelque chose de nouveau. Après, ça a été détourné, il y a eu pas mal d'interprétations. Mais l'idée, c'était de retrouver l'esprit du 11, justement, où tout le monde se retrouvait autour d'une même convivialité. Hein. Il y a le manifeste des convivialistes, il y a pas mal de choses avec Patrick Vivray, etc. Il y a plusieurs mouvements, hein, le pacte civique, etc., qui se retrouvent dans ce désir de faire durer cette fraternité et d'arriver à échanger des avis qui peuvent être divergents, mais dans la bienveillance et dans le désir de retrouver quelque chose qui nous rassemble plutôt que qui nous divise. Quoi. Et c'est vraiment l'objet des réunions qui ont eu lieu tous les 11, donc à Paris et puis à Lyon et dans d'autres villes. Donc ça se passe, suivant les endroits, ça se passe dans des endroits différents. À Lyon, on a choisi de le faire dans des endroits un peu symboliques, à chaque fois différents. Donc ça s'est passé place Carnot au départ à l'Université catholique. Ensuite, on a été à la Maison des Passages, ensuite à l'École Santé Sociale du Sud-Est. Et la prochaine fois, comme ça tombe un jeudi et que le jeudi, il y a les pique-niques au Parc de la Tête d'Or pour la préparation des dialogues en humanité, et que les dialogues en humanité, cette année, ont comme sujet « Osons la mondialisation fraternelle », une mondialisation fraternelle. Donc, c'est vraiment le même sujet, quoi. Donc, on va se réunir avec eux dans le Parc de la Tête d'Or. Donc, si ça vous intéresse, c'est à 19h. Et c'est en face de l'île aussi. Voilà.
Est-ce que vous avez un site web ou...
Alors, il y a une page Facebook, Mouvement du 11 et Mouvement du 11 Lyon.
Bonsoir. Je tiens d'abord à faire une remarque d'ordre général. Je pense qu'il y a un constat qu'on peut faire en France aujourd'hui, qu'on peut déplorer. C'est qu'on est systématiquement dans les étiquettes et dans l'anathème. Donc complotiste, fasciste, pas fasciste. Donc souvent on est toujours sur la forme, on est dans un système binaire où les uns ont raison, les autres ont tort, et où ça ne peut mener qu'à l'affrontement. Et tout ça se fait, je pense, au détriment du fond, qui voudrait en fait qu'on s'intéresse à des processus historiques et géopolitiques, etc., pour arriver à en parler ensemble et déterminer réellement qu'est-ce qui se passe. Aussi garder le bénéfice du doute, etc. Donc, dire par exemple, si je prends un gros morceau, on va dire le 11 septembre, il faut quand même souligner qu'il y a un comité de plus de 3000 ingénieurs et architectes, donc c'est quand même pas des oiseaux, qui se sont regroupés pour prouver que c'était de la démolition contrôlée. C'est pas moi qui l'invente, c'est vérifiable. Donc, vous pouvez pas à la fois dire que... les gens qui se posent des questions et qui remettent en cause... Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas des versions officielles. Mais moi, naïvement, j'ai tendance à penser que la version officielle des choses, c'est celle qui est relayée par les médias et auxquelles tout le monde a accès et qu'on est censé croire. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que la vérité, parce que la vérité, elle est là, il y en a une, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle est toujours la version officielle? Est-ce que c'est ça que vous essayez de nous dire?
Je vous réponds? Bon, moi j'ai été très prudent, et vous étiez là depuis le début. D'abord les labels et les étiquettes, c'est des outils pour travailler, c'est pas des essences. Donc c'est des étiquettes qui sont variables, on s'en sert. Dans le cas des...
Ne résout rien, c'est toujours au détriment du fond en réalité, c'est ça que je déplore aujourd'hui. En France c'est comme ça, si on est de gauche, on est de droite, on est ceci, on est cela, donc tout le monde en gros se met sur la gueule, pour parler un peu vulgairement, excusez-moi, mais c'est toujours au détriment du fond, c'est-à-dire que finalement on n'analyse jamais froidement les faits, on n'essaye pas de comprendre les choses, de les remettre dans un contexte historique et géopolitique et savoir qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Parce qu'effectivement, on est dans un monde où tout va très vite, c'est compliqué, c'est brouillé. Mais si on veut arriver à résoudre les choses, c'est pas en disant il y a les complotistes d'un côté, il y a ceux qui ont la vérité de l'autre, parce que chacun va rester sur un statu quo et ça ne résout rien en réalité.
Je ne sais pas pourquoi vous dites qu'on ne va pas sur le fond et qu'on n'analyse pas à froid, parce que précisément, je pense qu'on fait le contraire. Et qu'on fait le contraire partout, tout le temps, et pas seulement les enseignants, mais tout le monde. C'est-à-dire que les sociétés pluralistes sont des sociétés où il y a des discours qui viennent de partout. Et il y a des analyses. Regardez le bouquin d'Emmanuel Todd, voilà, il y a eu des contre-analyses. Moi, je trouve, alors c'est peut-être une déformation liée à mon métier, mais qu'on est quand même en permanence dans un pluralisme de discours et dans l'analyse du fond. Vous dites qu'il n'y a pas de profondeur historique. J'ai essayé de vous donner de la profondeur historique et de remonter du Moyen-Âge au XVIIIe pour vous dire il y a des formes communes, vous voyez. Donc, et encore une fois, moi je...
Non, mais stop, s'il te plaît. Non, mais ça va. C'est bon. Tu as posé ta question, c'est bien. On te répond.
Et je ne pense vraiment pas qu'il y ait un discours officiel. Ça, c'est quelque chose... Alors, pour le coup, c'est un label. Voilà, c'est une étiquette. C'est-à-dire qu'on va écraser à un moment des discours extrêmement différents. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant il y a des discours qui émanent de partout. Et à un moment, on va les écraser, on va les amalgamer et on va dire ça, c'est le discours officiel. Et donc, nous, on va produire un contre-discours. Mais il faut revenir à ce discours originel-là et dire quelles sont ses formes, de quoi est-il porteur. Moi, j'ai essayé d'analyser. Je ne suis pas resté sur ce discours-là. Je suis allé sur le contre-récit. Mais on peut travailler sur les deux. Voilà. Après, sur les 3000 ingénieurs qui disent que c'est une démolition contrôlée, enfin, voilà, moi, je n'ai pas du tout les moyens d'aller là-dessus. J'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On n'a jamais trouvé quelqu'un qui a dit « j'ai posé les bombes à l'intérieur des deux tours » ou « j'ai posé les bombes dans l'immeuble numéro 7 dont on nous dit qu'il s'est effondré parce qu'on l'a dynamité de l'intérieur ». Si c'est votre croyance, je la respecte d'une manière vraiment totale, soyez-en assurés, je n'ai pas les moyens de vous opposer quelque chose là-dessus, mais on n'a pas trouvé de gens qui nous ont dit « j'ai dynamité, je me repens, j'ai tué des hommes et j'en souffre et je viens me confesser devant la télévision américaine pour dire « nous étions 200 dans la confidence et voilà, je vais être celui qui va briser l'omerta ». Pour l'instant, si ça existe, ça n'émerge pas. Or, on a des repentis dans plein d'autres domaines, des gens qui vous disent « j'ai fait des barbouzeries, j'ai dynamité le Rainbow Warrior ». Enfin, à un moment, ça sort. Et puis, il y a des journalistes d'investigation. Là, ça ne sort pas. Voilà. Bon, le 11 septembre, c'est compliqué. Mais je voulais juste vous donner cet exemple-là.
Est-ce que je peux juste rajouter une dernière petite
chose ? Non, c'est fini. C'est fini. Il y a d'autres gens. S'il reste du temps, vous parlerez. Il y a plusieurs personnes qui doivent parler. Voilà.
Le problème en fait que je vous évoquais, c'est peut-être le suivant. Parfois, face à une difficulté sociale, un homme politique, un homme des sciences, va face à une analyse des sciences sociales pour envoyer en fait, l'ombre de la durée du complot. Je vous donne cet exemple ici même à l'Université de Lyon, le doyen de la faculté des sciences, lorsque j'ai évoqué un problème social, celui des vaccins, donc les coûts et la réticence des gens à cause justement d'un problème politique, m'évoque la durée du complot immédiatement. Donc, sans réfléchir une seconde, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont effectivement des sciences dans leur domaine. Mais dès qu'ils sont déplacés quelque part ailleurs, ils évoquent la théorie du complot. Moi, ça ne m'a pas démonté, ça m'a fait rire, ce qui m'a permis de répondre. Sauf que, à mon tour, je ne suis pas capable de tout. Et si on regarde la complexité sociale du monde, dès qu'on demande à une seule personne de comprendre, d'embrasser et de résoudre tous les problèmes de la société, voire même mondiale, on est dans la difficulté. À la complexité qui est difficile à appréhender. Et il me semble, ce que je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà réfléchi comment et quelle est l'intention politique pour le coup des gens qui, face à une difficulté, analyse sociale, juridique, réfutable, où il y a parfois un vrai obstacle épistémologique pour parler des sociétés, ils vont immédiatement vous disqualifier à travers la théorie du complot. Et ça, c'est dramatique parce qu'eux-mêmes, ils renvoient justement à la croyance du complot, des martiens, etc. C'est aussi ces discours-là qui aident pour les populations.
Merci pour votre question. Deux petits éléments de réponse. Un premier, c'est qu'il faut, qu'on s'habitue à accepter la complexité du monde. Voilà. Et à accepter que ça nous échappe en partie et qu'au fond, qu'est-ce qu'a dit tout le XXe siècle, que ce soit les sciences sociales ou la psychanalyse ? Il y a des phénomènes qui nous échappent et qu'il va falloir essayer d'aller explorer. Alors dans un cas, ça va s'appeler l'inconscient qui travaille tout seul. Dans l'autre cas, ça va s'appeler le monde social qu'il faut déplier Et c'est devenu un métier d'aller déplier de ce monde social. Mais je crois qu'il faut accepter la complexité du monde. Ça ne veut pas dire qu'il est, ça veut pas dire qu'il est, que c'est un mystère non perçable. Ça veut dire simplement que ça prend du temps et ça prend ça existe sur une autre temporalité. Voilà. Déplier le monde social nécessite une temporalité longue. Et il y a des gens qui vouent leur vie à ça. Et il ne faut pas oublier que c'est cumulatif. La science est cumulative. Donc voilà, des travaux produits à un moment viendront s'ajouter à d'autres. Bon. Sur l'autre partie de la question, moi, on vous dit que voilà, des gens vous renvoient à cette idée de la théorie du complot. Je vais biaiser un tout petit peu, mais juste pour vous dire qu'on a des travaux je l'ai mentionné, de Gérald Bronner, qui a vraiment fait toute sa carrière là-dessus, sur la question de savoir pourquoi on adhère plus à une explication qu'à une autre, et notamment pourquoi la théorie de l'explication par le complot est la plus séduisante. Donc là, ça renvoie pour le coup à de la psychologie sociale. Il a fait des focus group où il va dire à des gens dans une forme de laboratoire, il va leur soumettre un problème et il va soumettre 5 explications à ce problème-là. Et c'est souvent l'explication soit la plus simple, soit la plus complotiste qui va l'emporter. Ça renvoie à des mécanismes cognitifs, ça renvoie à des mécanismes de mémorisation. Souvent, l'analyse du complot est la plus facile à retenir, complot entendu vraiment au sens large, c'est la plus séduisante, etc., etc. Voilà, donc il y a quand même des éléments qu'on peut travailler qui expliquent pourquoi cette croyance-là marche plus que d'autres. Voilà, je ne réponds pas complètement à votre question, mais je vous donne un élément. J'aurais dû mettre une petite photo du livre du livre de Bronner.
Si on prend les attentats de janvier, la loi sur le renseignement est arrivée quelques jours après. Certains disaient qu'il y avait dans les tiroirs du gouvernement depuis un certain temps, donc évidemment, ça alimente quand même assez théorie. Et à l'inverse, par rapport à ce qui a été dit dans les questions, les attentats de 2004 à Madrid n'ont eu aucun impact législatif, normatif en tout cas, en Espagne. Et en Angleterre, suite aux attentats, le gouvernement est même revenu un peu sur en essayant justement d'être un peu plus respectueux des libertés individuelles, ce qui était assez facile vu la marge qu'ils avaient prise en 2000 ans. Donc est-ce qu'on peut faire un lien entre l'importance d'un complot et l'impact que ça peut avoir sur notre quotidien?
On peut le faire, mais à condition de ne pas forcément le faire rétrospectivement. Voilà, c'est-à-dire que là, on a tendance à partir de la fin et de dire la législation antiterroriste étant passée, elle peut être potentiellement très liberticide, etc. Est-ce que ça renvoie à la taille du complot lui-même? Je ne sais pas si on peut exactement faire comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une corrélation. Je suis pas sûr qu'il y ait une causalité. Après, l'impact d'un événement comme celui-là, c'est pas nécessairement un impact qui est complètement objectivable dans une activité législative. Voilà. Donc oui, on peut complètement l'objectif est dans une activité législative en disant ça y est, le projet était depuis longtemps dans le ministère, donc on le fait passer parce qu'enfin c'est l'occasion. Pourquoi pas? On sait très bien que les projets dorment un certain temps et que voilà. Mais en même temps, cet impact, il n'est pas forcément objectivable sur ce qu'il a fait aux individus, sur ce qu'il a fait aux sociétés, sur des choses qui relèvent de la psychologie ou de l'intime, c'est-à-dire des formes d'intranquillité. Il y a ça, hein, dans le bouquin, c'est-à-dire la sidération, la stupéfaction. Tout ça n'est pas complètement objectivable. Et or, la mesure de l'événement, elle pourrait aussi se faire par ce biais-là, c'est-à-dire le moment où quelque chose bascule, parce que l'événement est de très grande ampleur, soit par le nombre de morts, soit par aussi l'effet qu'il produit là, comme ça, et où c'est plus difficilement objectivable. Voilà.
Alors, bonsoir. Les cartes sur table, je ne crois pas qu'elles soient officielles ni du 11 septembre, ni de l'affaire Mohamed Merah, d'ailleurs, on n'a pas parlé ce soir, on pourrait rapprocher de ceux du mois de janvier. Je ne crois pas non plus à la version officielle des attentats de Charlie Hebdo. Voilà, je dis ça, c'est pas pour entrer dans le débat, etc. C'est juste pour dire que voilà, moi je suis un citoyen qui m'interroge, il ne faut pas qu'on soit dans le conflit en fait contre nous, parce qu'on ne croit pas à une telle version ou une autre. Voilà. Voilà, donc c'était juste une remarque. Après, c'est juste sur l'argument que vous avez donné à la fin de votre conférence vous avez donné en fait des arguments généraux pour contrer les complotistes, entre guillemets. Et un de vos arguments, c'était de dire que les complotistes pouvaient s'exprimer librement. Et alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord, parce que, par exemple, si on prend l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale, on peut parler de complotisme, finalement, quand on parle de négationnisme, c'est une forme de complotisme, on pourrait le dire. Là, par exemple, il y a la loi Guesso, donc il ne faut pas s'exprimer librement. Et de la même façon, je prends un exemple très bête, Jean-Marie Bigard, quand il a parlé de 11 septembre, ça lui est quand même bien tombé dessus, quoi. Voilà. Donc, moi, ce que je tends à dire, c'est que cet argument-là n'est pas forcément pertinent.
Bon, je vous donne quelques éléments. C'est compliqué probablement de vous répondre parce que je vous sens habité par une conviction. Moi, j'ai été très... Là encore, j'ai bien distingué... On est dans un espace de scientifique. J'ai bien distingué que l'objet qui m'intéressait, c'était le complotisme et pas le complot. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet imaginaire-là qui se déploie, qui vous atteint, qui m'atteint comme chercheur. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire, la sociologie, c'est travailler... disent les Durkheimiens et autres, c'est travailler sur la part impersonnelle que nous avons dans l'esprit, la part de la société qui est dans notre cerveau. On croit tous penser individuellement, avoir des idées qui nous sont propres, qui sont géniales, etc. Et puis, bizarrement, quand on fait un peu de sociaux, on se rend compte qu'elles sont partagées par 5 millions de gens. Il faut accepter d'être un élément d'une société. Donc moi, vraiment, ce qui m'intéresse, vraiment, c'est cette part impersonnelle, c'est-à-dire des discours, des représentations qui existent dans une société et qui, à un moment, vont nous atteindre. Vous avez été atteint par ce discours-là, moi j'ai été atteint par un autre discours. Mais ce qui m'intéresse, c'est le discours. Les porteurs de ce discours, ce n'est pas forcément les individus, moi je me suis toujours passé du côté des groupes qui faisaient exister ces discours-là. Encore une fois, ces discours ne sont pas flottants. Quand vous tenez votre discours, vous le tenez vous, mais il a été forgé pas par vous, il a été forgé par d'autres gens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire... Qui balance ça? C'est-à-dire, quand Jean-Marie Le Pen dit c'est une officine, qui le dit? Quand une partie, certains groupes politiques français disent la Shoah, ça n'a pas existé comme ça, bon, ce sont des gens qui forgent ce discours-là. Donc après, libre à vous de le répercuter et effectivement de dire, ah, bizarrement, ce discours, il est mal accueilli dans la société. Quand je dis que la Shoah est un mythe, je m'en prends plein la figure. Libre à vous de le faire. Libre à vous de travailler différemment. Libre à vous d'interroger différemment. Il y a des gens qui étaient négationnistes, qui ont commencé à travailler sur les chambres à gaz et qui ont changé d'opinion et qui sont devenus, je pense à son nom m'échappe, mais qui est devenu un historien spécialiste de ces questions-là. Voilà. Vous avez pu vous exprimer librement. Moi, je crois qu'on est en présence de discours qui sont des discours politiques. Le discours négationniste n'est pas un discours d'historien. Il n'y a aucun historien négationniste. Le discours négationniste est un discours politique. Et on sait, par les travaux de Valérie Higounet ou d'autres, que c'est porté par soit une extrême droite, soit des groupes plus radicaux qui vont diffuser ce message-là. Et c'est pour ça que je pense que ce discours-là relève, et c'est pour ça que j'ai commencé en vous répondant comme ça, relève d'une conviction. Moi, en tant que chercheur, je ne vais pas démonter ce discours-là. Il y a des gens qui le font. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, dans la société, cet imaginaire-là traverse des gens et pourquoi cette conviction-là existe. Voilà ce qui m'intéresse. Et sans aucune stigmatisation, et j'espère que vous n'avez pas senti une quelconque stigmatisation dans mon propos, même si parfois, voilà, on peut être un tout petit peu plus relâché. Ce n'est pas du tout l'idée. Voilà.
Bonjour. On a deux questions, je pense qu'on va s'arrêter pour la raison habituelle. Non. Écoute, il y a une raison matérielle, tu y crois ou tu y crois pas, parce que voilà, c'est que c'est sous alarme 8h15. Non, c'est un complot évidemment, mais
pour nous déloger.
Donc on est obligé de. On vous. Voilà. Donc on prend les deux dernières et on peut pas non plus. Hein. Voilà, on prend les deux dernières et on s'embrasse et on s'en va.
Moi j'avais plus une question. Quand complot et complotisme sont entremêlés, par exemple pour la guerre en Irak et les armes de destruction massive, donc il me semble que par la suite il était prouvé qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, mais en même temps ça revient à dire qu'il y a eu un complot pour aller en Irak. Et donc, qui a donné lieu à beaucoup de complotisme, beaucoup de théories. Et du coup, comment est-il possible de savoir quand le complot s'arrête et quand le complotisme démarre?
Il faut travailler, mais là, en l'occurrence, il y a eu un mensonge d'État, et les instigateurs de ce mensonge d'État ont été trouvés, alors que, apportez-moi les sages de Sion, voilà. C'est ça l'idée. C'est la distinction, elle se fait là. C'est-à-dire qu'on a vu, qui, à quel moment l'administration fédérale va forger un mensonge. Il y avait eu des armes de destruction massive auparavant, puisque Saddam Hussein avait gazé une partie, avait gazé des Kurdes notamment. Là, il n'y en avait plus. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, on voit qui a porté ce mensonge-là et pour quelles raisons politiques. Dans les cas que j'ai étudiés, voilà, les instigateurs restent définitivement secrets, voire de l'ordre de l'imagination.
Bonjour à tous. Oui, je posais la question, comment donner un ton comploteur ? La motivation d'origine, et même comploteur professionnel, j'appelle ça presque. Et puis, quelle est la motivation, ou les motivations, vous en avez parlé pas mal, les psychologiques, reconnaissance financière même, pourquoi pas, jusqu'à faire un film, jusqu'à avoir un journal, ainsi de suite, parce qu'on a besoin de retour.
Bah, sur la psychologie, moi je vais rester prudent parce que c'est pas forcément mon domaine, mais on a des travaux qui montrent que ça paraît extrêmement gratifiant. D'être du côté des initiés, d'être du côté de celui qui a une connaissance que les autres n'ont pas et de la diffuser, notamment dans le cas des rumeurs. C'est-à-dire que ça vous donne, on sait que le savoir peut marcher avec le pouvoir, donc avoir un certain savoir vous donne une aura dans de petits cercles. Donc les ressorts psychologiques sont là-dessus. Il y a aussi l'effet très rassurant, c'est-à-dire encore une fois, comprendre le monde et comprendre des fonctionnements complexes par ce biais-là est extrêmement rassurant parce que brutalement on s'y retrouve, alors que sinon on est plutôt dans le brouillard. Et puis dans une version plus science politique, on a d'abord une conviction politique, on a d'abord des ennemis, des gens qu'on hait, et on va inventer ou on va utiliser une rhétorique particulière qui peut marcher, qui va être la rhétorique du complot, parce qu'elle marche. De la même façon, Hannah Arendt avait montré que plein de partis d'extrême droite en Prusse n'arrivaient pas à exister au tournant du siècle. À partir du moment où ils ont activé le levier antisémite, ça a cartonné. Donc ils l'ont vraiment réactivé ensuite. Donc c'est d'abord comme ça que ça c'est d'abord comme ça que ça fonctionne. On va d'abord avoir une conviction politique, et ensuite on va l'habiller d'une manière ou d'une autre. Là, en l'occurrence, on peut l'habiller par les traits du complot.
Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je crois quand même qu'un des grandes leçons de tout ce que tu nous as dit, c'est cette idée qu'il faut... Et c'est aussi une réponse pour vous, et on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter à d'autres moments. C'est pas parce qu'il y a des... Il y a une pensée complotiste, c'est pas pareil, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de complot. Voilà, il y a des complots. Voilà. Il y a des complots, y compris des complots d'État, il y a des mensonges d'État, etc. C'est pour ça que j'ai lu ce passage du livre de Patrick et de Mathieu. Parce qu'en effet, le fait qu'il y a des vrais complots, le fait qu'il y a des vrais mensonges d'État, favorise une pensée complotiste. Mais ce que je crois qui était important dans le message qui était un message fondé sur de l'analyse sociologique et de sciences politiques d'Emmanuel, c'est l'idée qu'il y a des moyens d'échapper à l'idée que voilà, c'est toujours derrière, etc. Et qu'il y a des moyens simples, effectivement, l'exemple qui vient d'être donné de la guerre en Irak, qui était à la fin du petit passage que je vous ai lu, vraiment très clairement, en effet, il y avait un mensonge d'État, et en effet, le travail politique, le travail des historiens, des journalistes, et le travail d'enquête, etc., a montré qu'en effet, c'était un mensonge d'État, et maintenant tout le monde le sait.
Excusez-moi, mais... Voilà.
Mais ne reliez pas tout à une même causalité, ne reliez pas tout à un même grand complot.
Quand on cherche toujours le même grand complot, on trouve toujours ce qui est au début et qu'on a toujours trouvé depuis des siècles, c'est la faute des Juifs. Parce que c'est ça qu'on trouve toujours. Voilà. Non, je te dis qu'on trouve toujours ça. Au fond, on trouve toujours ça. Voilà. On le trouvait dans Liontorel, les gens qui allaient mettre la lèpre, qui diffusaient la lèpre en Europe. Comme toujours, bah, c'était toujours les Juifs, quoi. Hein?
Il peut y avoir des événements qui n'ont pas, qui sont pas initiés par un complot. C'est-à-dire que vous dites la guerre en Syrie, la guerre en Libye. Si vous allez repasser tous les événements de l'histoire de la à l'aune de ce tamis-là.
Il y a de l'analyse. Non, excuse-nous, mais On est très sympa, on laisse parler, mais on ne va pas vous donner la dernière parole quand même, pour ne pas exagérer. Voilà, donc la dernière parole, ça sera, ça continuera, vous reviendrez, vous pourrez poser d'autres questions, etc. On vous remercie encore tous d'être venus.
Merci.
Et on est, voilà, si vous avez des idées ou des envies que ça continue, n'hésitez pas à nous écrire.